Salut.
Incroyable!
Mrs. Robinson, you're trying to seduce me.
Tu vois ce qu'il regarde?
Chef, oui, chef!
Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous voyez ce qu'il regarde?
Chef, oui, chef!
Quoi?
Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce C'est quoi le cinéma de mars, toujours accompagné de Margot Michaelberg.
Bonjour.
Louis Debac.
Bonjour.
Et Thierry de Pinsin.
Pourquoi Margot a le droit à Margot Michaelberg et moi j'ai le droit à un nom normal
américain
Margot Michaelberg.
Exactement. Je suis Loan Nives et vous écoutez bien la seconde équipe. À titre informel, nos actualités personnelles durant les mois d'avril et mai seront assez encombrantes de ce fait, même si certaines émissions sont déjà programmées pour que nos voix ne vous manquent pas trop. Des annulations de dernière minute peuvent survenir, donc entraînant la suppression de ces épisodes prévus. Nous comptons beaucoup sur l'équipe de C'est quoi l'actu pour vous informer pertinemment pendant ces deux prochains mois avec une forte dose de sortie. Mais assez parlé du futur, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le présent. Un présent où une jeune fille est enfermée dans un semblant de liberté à cause d'une société patriarcale paysanne qui pense incarner la raison. Un présent où on se demande quel est le plan de ce gouvernement de droite qui pense plus aux extrêmes qu'à sa population. Un présent où, ironiquement, les hommes sont des gynécologues qui murmurent dans la ville. Et enfin, un présent où la jeunesse étudiante doit se nourrir par ses propres moyens pour éviter la dépression, le suicide et la mort. Dans la joie et la bonne humeur, commençons avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant.
Y'a pas quelque chose que t'aimerais faire?
Hein?
Une dernière volonté.
Je vais te régler ça, moi, cet humanisme-là. Il y avait tout en ami.
C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose.
Je pensais que les humains avaient vraiment peur de la mort.
Je souris pas.
Sacha, incarnée par Sarah Monpetit du sublime Falcon Lake par exemple, est une adolescente vampire qui lutte avec sa conscience en refusant de tuer pour se nourrir. Sa compassion pour les humains la met en danger car ses canines ne poussent pas. Elle dépend de ses parents pour obtenir du sang jusqu'à ce qu'elle rencontre Paul au bord du suicide. Après que ses canines aient finalement poussé, ses parents l'envoient vivre chez sa cousine Denise pour apprendre à se nourrir seule. Paul, prêt à l'aider, doit d'abord réaliser ses propres dernières volontés.
Hey loulou, je pense que le titre se suffit à lui-même pour ce film, tu vois.
C'est un vampire, monsieur Sidé.
Oui, non, mais en soi, le titre, oui, il se suffit à lui-même. Et d'ailleurs, j'ai bien envie de t'entendre toi en premier, Louis.
Je suis assez embêté avec le film, étant donné que j'ai passé un moment, mais je pense que... Un très très bon moment, pardon. Je pense que si je le revois, je vais être déçu. Bah oui, parce que le film m'a mis dans un mood assez franc, assez... comment dire ? Doux mélancolique, c'est le genre de mood que j'aime énormément et ça me fait énormément plaisir de voir Sarah Monpetit dans un autre registre que celui de Falcon Lake où elle était une adolescente un peu plus exubérante, extravertie, etc. La voir en personnage introverti m'a fait énormément de bien parce que je me suis dit « Ah, une jeune actrice qui a déjà une très bonne palette de jeux au cinéma ». Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Je pense que c'est une jeune artiste vraiment à suivre, notamment au cinéma. Et j'ai hâte de la voir si elle fait aussi de la série, etc. J'étais aussi très heureux de voir Patrick Yvon, qui joue dans cette superbe série qui est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, de Xavier Dolan, que j'aime énormément.
Oui, moi aussi.
Ah bah écoute, on est deux. Je pensais que tu détestais, c'est pour ça.
Ah non, du tout.
Non, non, j'aime beaucoup cette série, donc du coup, ça m'a fait
bonner une chambre. Bon, bah si maintenant on discute entre nous de ce qu'on aime ou de ce qu'on aime pas.
Non mais voilà, ça m'a fait énormément de plaisir de revoir des acteurs que j'aime énormément du cinéma québécois en tout cas. Après, qu'est-ce que j'ai à dire sur le film? Je le trouve très très bien réalisé d'un point de vue purement technique. Il est très efficace. Elle utilise des tropes ou plutôt des gimmicks, je dirais, du cinéma fantastique et notamment de vampires qu'elle se réapproprie pour créer beaucoup d'humour. C'est un film devant lequel, par exemple, moi j'ai beaucoup ri alors que la salle, pas du tout. J'ai eu des longs moments de solitude. Mais c'est une comédie noire qui fonctionne avec moi tout simplement, d'autant que ça traite très bien de l'adolescence, du passage à l'âge adulte, de c'est quoi grandir, mon corps change, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé ça assez subtil pour ne pas être lourdeau et en même temps je me pose la question de ce qu'un deuxième visionnage apporterait à ce film. tout simplement.
Et quand tu parles de gimmick hein, du cinéma de vampire, tu parles de quoi?
Par exemple, le vampire qui suit sa proie tout seul dans le noir, dans un petit lieu désaffecté. Vous voyez tous de quelle scène je parle, je pense.
Évidemment.
Oui.
Voilà, c'est une des premières scènes du film où la première fois où elle rencontre Paul, elle le suit alors qu'il fait une première tentative de suicide. Et en le suivant, on voit uniquement des ombres. On ne la voit pas, elle, directement. Elle est vraiment filmée comme un prédateur, alors qu'on l'a vu pendant tout le début du film comme une petite fille toute mignonne, ce qui vient casser son personnage et lui donner un côté effrayant. Et du coup, ce qui est très efficace pour nous, parce que ça vient créer une espèce de truc un peu humoristique de « Oh là là, soit elle est devenue vraiment dangereuse, soit juste c'est ridicule ce qui est en train de se passer. » Et j'ai l'impression que la réalisatrice le sait.
Oui, c'est comme ça que du coup que tu penses qu'elle le réinvente ?
Je dirais pas qu'elle le réinvente non plus. Encore une fois, c'est très bien exécuté. C'est très classique dans sa manière de construire un récit et de le filmer. Mais elle l'utilise à des fins qui sont toujours... qui sont là pour servir une espèce d'ambiance teen, mélancolique et pas... tout simplement de manière caricaturale où ouais, on va faire des films de vampires, donc il faut faire un truc qui fait un petit peu peur quand même.
C'est tellement que fait Ariane Louis XVI justement dans Vampire Humaniste, cher ce suicidaire consentant. Est-ce que vous avez quelque chose à redire justement sur la façon dont elle l'écrit, elle met en scène cette vampire, ou cette famille de vampires en tout cas?
Je dirais pas forcément qu'elle a réadapté énormément les codes du cinéma vampirique, bien au contraire, elle s'inscrit dans une lignée assez classique. De tout, on y retrouve les codes, ou même on parle de l'allergie à l'église, on parle du côté il faut leur planter un pied dans le cœur. Elle prend ça comme une légende établie. Moi d'ailleurs, ça me pose, alors pas un souci dans ce film là, mais c'est vrai que le vampire dont on devrait pas, enfin, t'aurais toujours quelqu'un pour dire ah, les vampires c'est pas comme ça, les vampires ça brille pas de jour, les vampires c'est des créatures mythiques, on en fait un peu ce qu'on veut, c'est comme le zombie, ça court pas, qu'est-ce qu'on s'en fout, l'essentiel c'est d'apporter son truc. Du coup, c'est pour ça que je pense pas qu'elle se base là-dessus. Par contre, il y a un truc que dit Louis qui moi m'intéresse, c'est la manière dont elle joue sur le côté prédateur du personnage, qui est un peu un prédateur malgré lui, hein, puisqu'on est face à une jeune fille qui ne veut pas être ce qu'on lui demande d'être. On parle aussi de déterminisme. Ça m'a fait pas mal penser à A Girl Walks Home Alone at Night de Anna Lily Amirpour.
Oui.
Ou, dans la manière dont justement elle va construire le personnage prédateur, voilà, un peu malgré lui. C'est assez intéressant. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle avait avant de grand chose. Par contre, elle le rend très gracieux. Moi j'ai pas grand chose non plus à dire sur le film de ce point de vue là, je le trouve très très bien fait, très efficace et au contraire très noble dans ce qu'il veut mettre en place, malgré un côté humoristique. Il y a un côté un peu humoristique qui est toujours prononcé, d'ailleurs Louis tu le dis très bien, et c'est vrai que le film parvient à insérer des notes d'humour parce que son sujet, peut-être qu'on y reviendra un petit peu après, est excessivement lourd, mais une fois de plus c'est pas du tout, enfin tout film n'est pas le film qu'il prétend être. Le film n'est pas un film de vampire. Il parle de bien d'autres choses en utilisant la carte du vampire. Et il a bien raison de le faire. Hein, c'est ce qu'on attend du cinéma. Mais
ouais, peut-être que tu veux aussi aborder la représentation du vampire entre guillemets rigolo, un peu comme ce que Vampire en toute intimité avait essayé de faire. La série de le réalisateur
Taika Waititi, film et série, du coup.
Film et série.
Bah non, le film est Taika Waititi et la série par Jermaine Clements. La série uniquement écrite par Jermaine Clements, Waititi ne s'y implique pas.
Ça, je sais pas du tout, mais ça marche. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a un côté vraiment lourd et bateau dans ce film. Moi, je trouve qu'elle arrive à créer de l'humour sans rendre le truc lourd comme Taika Waititi pouvait le faire. Il y a une sorte de subtilité derrière de juste, bah, en fait, c'est des vampires qui vivent dans notre société, donc forcément, ils ont des médecins, ils ont des professeurs, ils vont à l'école comme tout le monde, et c'est traité avec humour et légèreté sans rendre le truc bateau comme Taika Waititi a pu le faire. Spéciale dédicace au cinéma majestique de Lille qui passe des films beaucoup trop forts dans la salle numéro 3, alors que dans la salle 4, eh ben, on entend tout à côté, et le film est plutôt très silencieux en fait, et je me suis vraiment dit oh merde, j'entends la salle à côté, ça me sort totalement du film, et c'est là où j'ai vraiment prêté attention au silence du film et où je me suis dit il y a un vrai truc de mise en scène avec le silence. Il y a beaucoup de choses qui passent par l'écriture, par les personnages, et on n'a pas besoin de fioritures à côté tout simplement. Et je pense que la réalisatrice s'est vraiment dit je vais faire le portrait de cette famille aussi dysfonctionnelle que possible, je vais faire le portrait de cette jeune vampire qui est perdue au milieu de tout ça, et je vais raconter un pur récit d'adolescence et de passage à l'âge adulte, ou plutôt de passage de l'enfance à l'adolescence, je dirais.
Moi, ce qui m'intéresse dans le film, c'est que c'est même pas tant un film sur la dépression. Enfin, il en parle. Il en parle et il utilise des personnages dépressifs parce qu'il utilise la jeunesse. Il parle d'une jeunesse qui est totalement désavouée, une jeunesse qui est conditionnée, à qui on dit « tu dois ressembler à ça », et donc de jeunes qui s'ostracissent de ça en se disant « mais moi, je veux pas ressembler à ça ». Moi, naturellement, on me dit « bah si tu fais pas ça, tu meurs parce que t'es une vampire ». Bah génial, j'ai pas envie, je fais quoi ? Du coup, il y en a un jeune qui, pareil, doit s'inclure dans une société, doit bisouter les autres comme ses copains, doit toucher les filles, doit faire ci. Ça l'intéresse pas, lui. Ce qui l'intéresse, c'est les roches. Voilà, bon, super. C'est son truc. Et pourtant, ça n'intéresse personne, donc il se sent tout seul. Il y a des trucs intéressants. Mais là où le film, moi, me raccroche, là où il est intéressant, parce que jamais oublier qu'un film est censé faire un miroir de notre monde et en parler. Est-ce que Ariel Louis XVI, lorsqu'elle fait ce film, dit quelque chose sur le monde qui l'entoure, sur la société? Est-ce qu'elle est dans une espèce d'écran nostalgique dégueulasse qui ne sert à rien juste pour dire c'était mieux avant et donc elle ne parle de rien? Ou est-ce qu'elle parle de son monde? Je pense qu'elle en parle. Est-ce qu'elle en parle bien? Ça, c'est une autre question. Mais il y a un truc qu'elle dit, elle parle d'un sujet qui actuellement est débattu en France, c'est le droit à la fin de vie. On a quand même l'histoire de deux jeunes qui décident d'aider à faire des suicides assistés. On a une vampire qui décide, plutôt que d'attaquer des gens, un petit peu comme dans First de Park Chan-wook, c'était ce personnage qui allait siroter des gens à l'hôpital, voilà, en mode « je vais pas tuer des gens ». Là, c'est pareil, elle est dans cette espèce d'écran moral du « pourquoi tuer ?» et surtout « qui t'a chassé ? Qui est-ce que je chasse ?» Donc, il décide de faire des suicides assistés. C'est assez marrant, je trouve. Il y a un côté, en ce moment, on est en train de discuter justement sur le droit à la fin de vie, sur tout ça.
L'euthanasie, oui.
Sur l'euthanasie, non mais disons-le, c'est pas non, imposé. Moi, j'ai ça. Une position assez tranchée là-dessus, en mode, même si t'as 24 ans que tu veux crever, bah, c'est une décision réfléchie. À un moment, tu dois avoir le droit de le faire. Mais bon, ça, c'est un débat, on n'est pas là pour discuter de ça. Mais le film dit ça, en tout cas, dit, enfin, bon, même s'ils êtes des personnes âgées, ils sont en train de dire, c'est la jeunesse qui, clairement, va forger notre monde et va décider des choses qui vont se passer. C'est pas ce monde un peu vieillot et réfractaire et conservateur qui décidera à leur place, puisque de toute façon, c'est eux qui hériteront du monde et qui décideront. Ça, c'est une lecture qui m'intéresse beaucoup. Voilà, après, c'est une lecture que, malheureusement, au sortir de la salle, je trouve assez commune et pas forcément révélatrice de quelque chose, pour moi en tout cas. Mais j'ai passé un très bon moment, j'étais content qu'un film ose dire ça. Voilà, il ne marquera pas plus, mais le film a ce mérite-là.
Louis, en fait, il y a plein de thèmes qui sont sous-abordés, je pense, dans le film. Il y a vraiment eu un moment, notamment à la fin du film, où je me suis dit « Ah putain, ce serait intéressant si le film commençait maintenant. » Par exemple, quand on spoil totalement.
On a bien commencé là.
Oui, on a bien commencé, mais du coup, à la fin du film, Paul devient un vampire. Il est sauvé par Sacha parce que il est au courant du monde des vampires, donc du coup, elle est obligée de le transformer en vampire. Et lui, ça lui va très bien. Et je me suis dit, ouais, comment il va s'intégrer avec cette famille? Comment est-ce que sa mère? Parce que du coup, elle dit, mais tu vas devoir le dire à ta mère. Et oui, t'en fais pas, elle comprendra. Donc, c'est vraiment survolé ce passage-là. Et je me suis posé vraiment la question de l'inclusion de ce jeune vampire dans cette société, notamment sur la manière qu'ils vont avoir ensemble de se nourrir après. Parce que certes, ils font des suicides assistés. Mais si on regarde bien le film, ils vont pas directement tuer les gens. Non, ils débranchent juste la petite prise et après, ils récoltent le sang pendant qu'ils sont encore entre la vie et la mort. Donc, du coup, il y a tout aussi une lecture sur la manière de consommer, par exemple. Au tout début, il y a la mère qui lui dit « Ah, mais certes, tu les tues pas, mais tu les manges quand même, tu vois. » Donc, il y a quand même aussi quelque chose sur comment est-ce qu'on se nourrit aujourd'hui, c'est quoi les modes d'alimentation qui changent, tu sais, comme les véganes, etc. Et je la trouve aussi intéressante, cette thématique, dans le film. Le problème, c'est que c'est assez sous-abordé au profit d'un teen movies, encore une fois, très bien rythmé, juste ce qu'il faut réaliser, par contre, très, très bien écrit. Mais on passe à côté de quand même grandes questions que le film aurait pu aborder un petit peu plus en profondeur, je pense.
Est-ce que la métaphore la plus cachée en fait du film, c'est que la vampire principale s'appelle Sacha et qu'elle doit chasser des Pokémon?
Ça très drôle, personnellement. Mais je sais pas pourquoi, je sens que j'ai pas le droit d'aller.
Parce que Jerry est déjà saoulé.
Il a chopé ça à Miaouz.
En tout cas, si vous avez apprécié Vampire humaniste, cher suicidaire consentant, il y a un autre film qui va sortir un peu plus tard dans l'année qui s'appelle En attendant la nuit avec Bérénice Bejo et qui a gagné le prix du jury à Gérard Armé, qui est un film de vampire également, français cette fois-ci, hein, donc on a traversé l'Atlantique, qui, tout comme Vampire humaniste, cher suicidaire consentant, convoite du fantastique sans trop vraiment l'utiliser. On va être sur un vampire qui ne va pas manger des gens, où c'est sa mère qui va travailler dans le don du sang, qui va ramener du sang pour le nourrir lui de son côté. Le vampire va être caché de la société parce que c'est le seul qui est aux alentours. La famille, elle, n'est pas vampire, etc. Si vous avez aimé Vampire Humaniste, Chasse Lucifère Consentant, n'hésitez pas à aller le voir quand ça va sortir. Il me faut ça nul à chier. J'en ai fait toute une critique sur le site que je mettrai en description si ça vous intéresse. Mais pour moi, c'est le genre de film de français qui essaye de faire du genre sans vraiment le convoiter pour les petits vieux qui veulent essayer au cinéma.
Ça parle de kebab ?
Vraiment choqué. Arrête, ne me lance pas sur... Non, ça parle pas de kebab.
Ne faites pas de vagues, les enfants.
Moi, je me demande quand est-ce qu'ils vont faire un film sur en France, quand est-ce qu'ils ont le... Pas le courage, j'en sais rien, mais en tout cas, l'idée de faire un film sur l'affaire Vincent Lambert. Pour que la France aussi s'approprie un peu le sujet de l'aide à la fin de vie.
C'était Vampire Humaniste, Chasse Suicidaire Consentant. C'est peut-être encore en salle près de chez vous, donc n'hésitez pas à y aller pour vous faire votre propre avis. Nous, de notre côté, on va parler de La Jeune Fille et des Paysans.
Pour la tchao, c'est bon.
Ludzie we wsi teraz wydziwiają na ciebie.
Na nich szczekają.
Tu powiadają o niej, że łasa na chłopaku.
Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje.
Au 19e siècle, dans un village polonais agité,
Jagna,
destiné à un mariage avec un riche propriétaire terrien, se rebelle. Défiant les traditions, elle prend le contrôle de sa vie et perturbe l'ordre établi, déclenchant ainsi des périodes de tumulte et de colère. Ça veut tellement pas fait crème en plus. Voilà le scénario du nouveau film de Deka Welshman et Hugues Welshman, les réalisateurs et réalisatrices du reconnu La Passion Van Gogh. La co-réalisatrice Deka Welshman disait dans la note d'intention vouloir explorer les thèmes de la féminité et de la lutte des femmes dans une société dominée par les hommes, tout en condensant le récit de Władysław Reymont dans un roman de 1000 pages qui s'appelle Les Paysans en un film de 100 minutes. Est-ce que pour Margot et Thierry, qui ont vu le film et Louis qui ne l'a pas vu...
Je pose pas des questions.
Exactement. C'est pour vous convaincant et réussi et ça rentre parfaitement dans ce que voulait faire la réalisatrice.
Bon, assumons le fait qu'on va mal prononcer le prénom des personnages.
Ça va être compliqué. Oui.
Voilà.
On s'excuse donc, auprès de tous nos amis polonais.
Alors moi, il y a un truc, c'est que il y a quelques années de ça, je faisais une école d'art et on faisait beaucoup de sorties dans les musées. On a fait beaucoup de cours de peinture, de dessin, etc. Et j'avais ce sentiment à l'époque, et c'était le truc qui m'exaltait le plus, c'était d'aller au Louvre, de me retrouver dans une peinture gigantesque et de me sentir totalement absorbée, comme si j'étais dedans, et de vivre le moment présent et ce que le peintre a voulu me raconter. Et c'est exactement ce que je retrouve dans La Jeune Femme et le Paysan, qui du coup déjà utilise la même technique d'animation qui était utilisée dans La Passion Van Gogh.
Est-ce que c'est la même que les films Spider-Man du Spider-Verse?
Non, non.
Tu montes à ça. Bah, tu démontes.
Non, mais c'est une vraie question. Est-ce que en fait c'est de l'animation 3D ou ça a été filmé? Il y a eu une espèce de rotoscopie par au-dessus.
C'est un mélange.
Je pense oui. De ce que j'avais lu, il y a des scènes qui avaient été tournées et en fait ça a été repeint au-dessus, mais pas que. Mais il y a un certain mélange des styles qui fait que on a cette sorte d'animation extrêmement fluide, extrêmement organique, où il y a tous les traits qui bougent tout le temps. Ce qui fait que ça demande une attention très particulière parce qu'il faut le suivre, il faut le ressentir, il faut voir ce qui se passe à l'image, parce que déjà, demain, c'est absolument magnifique. Il y a une fluidité, une beauté qui se dessine là-dedans. Enfin, en tout cas, sur le plan technique, je trouve ça incroyable. Tout comme je trouvais déjà incroyable, personnellement, La Passion Van Gogh. Dans le fond, à mon sens, le film est réussi parce que, du coup, on suit cette jeune femme qui est extrêmement belle, extrêmement courtisée, par les hommes, que ce soit des hommes mariés ou non. Elle va être mariée de force avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle, et le fils de ce dernier va tomber amoureux d'elle, alors que lui est aussi déjà marié. Enfin bref, ça reste en famille, déjà ça. Et on va suivre ce personnage qui en fait est persécuté tout du long, parce que si elle attire les hommes comme ça, c'est forcément sa faute. C'est sa faute si son mari n'est pas satisfait, c'est sa faute si son beau-fils tombe amoureux d'elle, c'est sa faute si les hommes la regardent, c'est toujours sa faute.
Et tout un rapport par rapport à la beauté féminine que certains hommes pensent s'approprier, qui est
Oui, mais même tout comme les autres femmes qui sont elles aussi jalouses, et on arrive à un point où c'est vraiment la bête noire du film. Il faut l'abattre. C'est vraiment ça. Et le film réussit. Moi, il y a une scène que je trouve particulièrement incroyable qui est c'est au moment du mariage, après le mariage. On a une scène de... Enfin, ils sont tous en train de danser. T'as une scène extrêmement intense où elle danse. Et tu vois tous les regards autour d'elle. Enfin, vraiment, il y a une sorte de cercle qui se crée autour d'elle et qui la regarde. Et tu comprends tout de suite quelle est la personne qui dérange. Elle est à la fois fascinante. Et en même temps, il ne faut pas qu'elle le soit trop. Sinon, si elle prend trop de place dans le village et dans la vie des gens... ça va poser problème et ce sera toujours elle le problème.
Thierry, est-ce que tu t'es pas retrouvé comme dans le film de Joe Dante, les Looney Tunes passent à l'action, c'est-à-dire dans un musée, à rentrer dans les tableaux, à ressortir et à t'immerger dans les peintures?
Je voulais voir où t'allais aller. Parce que tout à l'heure, on a parlé d'une référence à un autre film, je me suis dit, il va forcément citer ça, et là, ils sont les Looney Tunes passent à l'action. C'est marrant, en plus, c'est malheureusement un film que j'ai un peu oublié, les Looney Tunes passent à l'action, depuis, je l'ai vu en salle, tu vois, donc ça... Ça donne un peu. Non, mais en fait, alors pour rester sur le parti pris visuel, et après oui, effectivement, alors qu'on aille plus loin que ça.
Oui.
C'est vraiment une monologue.
Mais après, c'est pas pour dire quand on va voir la jeune fille et les paysans au cinéma, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est le parti pris visuel. C'est pour ça que je préfère en parler en premier.
Bien sûr. Et la question à se poser quand on voit un parti pris visuel, c'est est-ce qu'il est pertinent ou est-ce qu'il sert la mise en scène.
C'est ce que j'allais te poser la question.
Voilà. Et là, je suis très content parce que. Absolument oui. Il n'y a pas longtemps, toi et moi, Louane, je te cite, on est allé voir un film à
They Shot a Piano Player.
S'appelle They Shot a Piano Player. Et autant le film pouvait être appréciable dans son postulat, malheureusement, en semi-docu-fiction un peu rompiche, c'est ce qu'on s'était dit habituellement, au-delà d'un sujet qui était absolument passionnant, qui avait choisi le parti pris de l'animation pour en plus démontrer des séquences de jazz, des séquences musicales qui auraient pu être un peu envolées. Et qui, bon, bah, finalement, non, on s'en filmait comme si, on avait filmé une séquence de jazz classique sans caméra virevoltante, sans une grande compassion, enfin, c'est une grande passion pour ce qu'on filme. Et, l'animation, malheureusement, ne servait pas le propos. Elle était juste, voilà.
J'étais juste là pour ramener des morts, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. Elle était là pour ramener, effectivement, les personnages décédés pour pouvoir les faire vivre à l'écran dans des flashbacks animés. Mais, au-delà de ça, oui, il n'y avait pas de parti pris qui embrasser l'animation. Là, c'est vrai qu'effectivement, on a plusieurs choses. L'animation sert effectivement à parler de tableau de maître. De toute façon, normalement, le but du cinéma, chaque plan est censé être un tableau. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier quand on met beaucoup de cinéma, même de chez nous, hein, qui a tendance à avoir une espèce de volonté téléfilmique d'avoir des plans fonctionnels.
Oui, cocorico, quoi.
Oui, voilà. Enfin, même, oui, qu'elle fout toujours pas plus, on va y revenir, plein de choses comme ça. Là, pourquoi aussi la peinture Van Gogh m'intéresse? Parce qu'on est sur un style qui s'approche. Alors, je vais pas dire termes.
La jeune fille et le paysan.
Oui, justement, je reviens parce qu'on est sur un truc qui se rapproche de la peinture de Van Gogh. C'est pour ça que je pense que c'est un auteur qui les intéresse beaucoup et qu'on s'approche de ça et qu'on va jouer aussi sur ces peintures d'aquarelle, sur tout ça. Et voilà, il y a des mouvements qui sont liés à ça. Je suis un grand connaisseur d'histoire picturale, donc je ne vais pas me prononcer à ce point. Mais là où ça va servir plusieurs choses, c'est que déjà, il y a des séquences, par exemple, musicales, qui vont embrasser la caméra, qui vont jouer sur les mouvements, où la caméra tout à coup devient conforme, embrasse les personnages, ça devient assez fou.
Ah, la musique et l'image se répondent parfaitement.
La musique et l'image se répondent, les décors s'animent, les décors deviennent parfois monstrueux, parfois enchanteresques selon ce que ça montre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes du point de vue d'une jeune femme qui est perdue dans son monde, qui ne le comprend pas, qui souhaiterait le revisiter, faire du révisionnisme, parce qu'elle ne se retrouve pas dans cette société. Donc forcément, le parti pris de montrer par son point de vue des personnages qui sont tout le temps déformés, qui ont toujours des visages qui sont mouvants, qui la regardent avec des choses qui se déforment autour d'elle, je trouve que ça apporte justement un grain et un intérêt sur le côté « ce monde est trouble, je ne le comprends pas ». Voilà, je trouve que en cela, ça sert très bien la mise en scène.
Mais moi, pour rester sur l'animation, je me suis d'abord posé dans les premières minutes l'intérêt, en fait, d'avoir pris une centaine d'animateurs, etc., pour faire de la peinture à l'huile pour ce récit. Encore, pour la passion Van Gogh, je comprenais, pour reproduire un peu le style de l'auteur, etc. Et là, dans les premières minutes, je me suis dit, mais à quoi sert cette animation? Pourquoi ne pas juste avoir tourné, en fait, ces scènes avec des acteurs comme ils l'ont fait en premier lieu? Et après, au bout d'une scène de mariage où la musique commence à vraiment devenir principale au film, J'ai compris, en fait, l'intérêt de cette animation. L'intérêt de cette animation, en fait, elle est là juste pour faire exister des décors qui n'existent pas. C'est des couleurs qu'on ne peut pas reproduire avec une caméra. Des traits, des décors, hein, par exemple, qu'on pourrait reproduire, mais avec des fonds verts, avec de la 3D, et ça rendrait beaucoup moins beau. J'ai ressenti un peu la même chose que la musique et l'extravagance un peu visuelle qu'on pouvait retrouver dans un The Wicker Man de Robin Hardy, par exemple. Dans ce truc où, à un moment, les costumes, les masques, il est...
Très bon film, hein, Wicker Man.
Oui.
C'est plein de choses.
Si vous aimez Midsommar, vous pouvez regarder aussi ça. Du coup, à partir de cette scène de mariage où la musique commence à prendre une envolée et à ne presque jamais s'arrêter jusqu'à la fin du film, bon, une heure et demie quand même, tout devient démesuré, tout devient presque surréaliste. Là, on remarque en fait justement que les personnages sont troubles, que les traits sont pas parfaitement tracés. Et en même temps, quand c'est des gros plans, on a vraiment l'impression de voir des acteurs devant nous et non pas de l'animation. Là, je commence à trouver l'intérêt de cette animation que je trouve absolument fantastique. Et en même temps, il y a ce côté peinture à l'huile, quoi. C'est pas la rotoscopie de Richard Linklater qu'on sent qu'elle est faite à moitié dessinée, à moitié ordinateur.
Quand ça va, Richard Linklater, c'est lisible, t'es pas sur du black shit. Hein.
Oui, voilà. Tout ça pour dire que la musique est pour moi l'attrait, en fait, qui m'a tenu pendant tout le film. Là où on en reparlera sur le fond, j'ai, on va dire toutes les 10-15 minutes, j'avais un truc qui se passait dans le récit et dans l'écriture qui faisait que je me détachais en fait du récit pour toujours rester un peu connecté au visuel, mais pour pas toujours être à fond dessus, quoi.
Moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet parce que vous tournez autour du pot depuis tout à l'heure et visuellement, j'ai compris que c'était ouf. Par contre, j'ai toujours pas compris de quoi ça parle en réalité.
Gola dit.
Oui, non, mais elle a résumé l'histoire du film, mais c'est quoi le fond de l'histoire ?
Je sais même plus comment je l'ai expliqué au début, mais en gros, oui, on a cette jeune femme, Yagna, qui est obligée de se marier, bah, parce que 19e siècle.
La femme du fermier principal meurt, donc du coup, le mec se retrouve veuf, vu que c'est le fermier le plus riche du village, il a plus ou moins le droit de choisir un peu la femme.
Et il choisit
et on lui met
la petite jeunette.
La petite jeunette, parce qu'elle est belle, etc. Il se marie, évidemment, elle ne veut pas. Et lui a un fils, qui lui est marié avec un enfant, etc. Sauf que ce fils-là tombe aussi amoureux de la jeune femme et ils ont aussi une relation dont le père est, enfin, dont le père est au courant. T'as tous ces trucs de jalousie, de violence intrinsèque, mais dont elle essaye de se détacher, sauf qu'elle n'y arrive jamais forcément. Après, son mari décède, je ne sais plus si elle change, non, elle change pas de village, j'ai un doute.
Non, elle reste dans le village.
Mais bah, la vie fait qu'elle rencontre d'autres personnes, sauf qu'elle est vue par tout le monde comme étant la sorcière qui veut absolument draguer tout le monde. Si jamais elle parle à quelqu'un, mais juste parler, tu vois, du beau temps ou quoi que ce soit, ah, elle veut absolument le draguer. Il faut qu'elle parte de ce village-là parce qu'elle veut en fait tous les faire succomber son charme. C'est en fait ça l'idée.
C'est intéressant que tu reviennes sur le fait de changer de village, parce qu'en fait elle change pas de village, mais par contre on a ce sentiment-là, étant donné que le film est découpé en quatre entre guillemets chapitres, c'est-à-dire qu'on va passer de l'automne jusqu'à l'été.
Se déroule sur un an.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup, au fur et à mesure des saisons, graphiquement, on change de palette esthétique, on change un peu d'ambiance en fait par rapport aussi à ce qui se passe sur le scénario. Donc du coup, forcément, tu te sens un peu dépaysé à chaque fois par saison, je trouve, par rapport au style visuel. Genre, on aura un peu plus de lumière l'été, l'hiver sera un peu plus sombre, etc. Mais ça se retranscrit vraiment plus par rapport à l'animation que si on l'aurait fait en prise de vue réelle.
Donc du coup, on a ce portrait de jeune femme qui veut absolument s'affranchir du portrait qu'on fait qu'elle de la croqueuse d'homme, entre très grosses guillemets, mais qui n'y arrive pas pendant une bonne partie du film. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé le plus, en tout cas, c'était la dernière partie, parce qu'on a quand même trois quarts du film où elle est posée comme victime, même si je n'aime pas forcément ce terme, mais voilà, elle subit tout ce qui se passe, elle le subit jusqu'au dernier quart où là on est sur le bûcher aux sorcières, c'est bon, elle dégage de là, on refuse qu'elle revienne et on va lui faire comprendre une bonne fois pour toutes. Et le film, c'est là où le film après se... Ouais, bonne ambiance. Et franchement, cette scène, elle m'a mis très très mal. Autant j'aurais vu ça en prise de vue réelle, je sais pas, parce que je pense, j'ai déjà vu des scènes comme ça, mais je sais pas ce que ça m'a provoqué là, sur ce coup-là. Mais c'était vraiment, dans mes tripes, vraiment pas bien, à voir ce moment-là. Et je trouve qu'il y a une la scène de fin qui est absolument magnifique, qui est une sorte de renaissance. Voilà, je trouve bien. De renaissance qu'on voit plus visuellement que narrativement. Après, je suis en train de...
Je comprends pas trop ce que tu veux dire dans...
Moi aussi, je suis en train de me perdre. Thierry, aide-moi.
Ah bah pour moi, il n'y a pas de renaissance, donc malheureusement, je vais pas vous...
Rédemption, peut-être.
Ah bah non.
Non, bah non, bah non, sur, non, parce qu'elle doit pas...
Mais justement, là est tout le problème, c'est que cette femme est coupable tout le long du film, mais coupable de quoi? Pour ça, je vais illustrer il y a une scène à la fin, donc Margot, tu parles de chasse aux sorcières et de bûcher. À la fin, le village se rebelle complètement contre cette pauvre femme, décide de l'attraper, on pense qu'ils vont la brûler, on pense aux sorcières de Salem, c'est tout à fait logique d'ailleurs que ça parte là-dedans, et on voit ces femmes qui commencent à la frapper, à lui déchirer ses vêtements et à lui dire « tu vas payer pour tout ce que t'as fait ». Et la question est toujours là, mais qu'est-ce qu'elle a fait en fait? Et elle n'a strictement rien fait. Nous assistons à ce portrait. On n'est jamais vraiment de son point de vue. On l'observe à travers les yeux de toutes les personnes de ce village. Et cette femme est absolument coupable. Elle est coupable d'une chose. Elle est coupable d'une chose depuis que le monde est monde. Elle est coupable d'exister. Voilà. Et le film, lui, nous fait bien comprendre. Cette femme est coupable d'une chose, c'est qu'elle est la plus belle du village. Voilà. Elle est plus belle que les autres. C'est tout. Elle n'a fait que ça. Elle n'a rien fait d'autre. Elle existe. Elle est là. Et à partir de là, elle va devenir un objet de convoitise, un objet de jalousie, un objet de tout ce qu'elle ne peut pas être. C'est pour ça que, pour moi, c'est même pas qu'elle cherche à s'affranchir de ce qu'elle est, elle essaye juste d'exister dans ce monde. On va avoir une représentation de ce désir qui, pour moi, se met dans un plan qui est annihilé, d'ailleurs, dans le reste, c'est le plan du mariage. Tu citais Margot tout à l'heure. On a donc, du coup, cette fête de mariage où on la fait danser, on fait plein de trucs, et juste après, son mari, donc, du coup, le vieux fermier, la prend sur le lit, donc l'allonge, et donc voilà, forcément, il va y avoir une scène, enfin, un début, on ne voit rien à cette scène-là, on verra une autre scène plus loin, justement, très explicite par rapport à ce qu'elle dit, justement, et on le voit juste qu'il la planche, il la plante sur le lit, hop, la caméra sort de la maison, elle commence à passer la forêt, on passe à une nouvelle saison, on passe à l'hiver, donc cette fois-ci, et là, elle va rentrer dans la maison où il y a le fils, qui est donc l'objet de l'amour de cette jeune femme, qu'il aime
également,
qui s'appelle Antec, donc normalement, c'est de là, sème d'un amour qu'elle pense sincère. Donc c'est assez marrant parce que la caméra justement nous sort de la richesse puisque le vieux fermier est riche, il a plus ou moins déshérité son fils qui doit s'occuper de ses terres, il lui garantit ne sera qu'un sous-fifre à mes yeux parce que tu es mon fils mais tu ne m'intéresses pas. Et on voit donc la caméra qui passe autant dans une autre saison que dans une autre maison, que dans une autre classe sociale également. Et la première chose que l'on voit quand la caméra se pose sur Antec et son épouse, c'est qu'ils se tiennent la main et qu'ils se sourient. Et donc on se dit effectivement, cet homme qu'elle aime a l'air plus roturier, plus pauvre, probablement plus doux aussi, plus gentil. Il a l'air beaucoup plus noble, ce personnage. Lui aussi, il est dans un mariage qu'il n'aime pas. Il aime cette jeune femme, mais il va pas être méchant avec sa femme. Et pourtant, deux scènes après, le film annihile cette pensée en rendant cet homme lui aussi jaloux, lui aussi violent, soi-disant victime du sort, mais qui s'en prend du coup à cette pauvre Yagna, peu importe. Malheureusement, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais voilà, il s'en prend également à elle pour cette raison-là. Donc lui aussi va devenir violent. Il y a une seconde scène, justement, explicite fois-ci de sexe, où clairement, c'est un viol, et fait par ce jeune homme-là. Alors que pourtant, la première scène où on les voit ensemble est plutôt belle, c'est l'interdit, c'est la beauté. Mais dès l'instant que lui est persuadé d'être devenu une victime, c'est cette femme-là qui détruit son couple, c'est cette femme-là qui détruit tout ce qu'il y a autour d'elle, c'est cette femme-là, se disant qu'il l'a désiré, c'était pas lui, il n'est coupable de rien. Et bien forcément, elle devient un objet horrible. Donc voilà, le film ne dit pas... Pardon, je dis pas qu'il dirait pas grand chose de plus, mais il veut avoir cette rhétorique qui dit justement, depuis que le monde est monde, la femme existe, donc la femme est un problème pour tout le monde. Et c'est horrible de voir ça. Il y a un gros parallèle qui est fait, dont on a parlé tout à l'heure, avec Dogville de Lars von Trier, où c'est un peu, en plus, le même type de personnage qui arrive, une femme blonde qui va attirer les convoitises, puisque c'est un village avec des femmes un peu plus âgées qui vont la regarder en mode, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme qui débarque, et où tout le monde va se mettre à la rendre esclave, à la violer, à faire plein de choses. Voilà, le film se ressemble beaucoup pour ça. Là où, et après je te laisse reprendre la main, parce que je vois que tu me fais des regards, Louane, là où il y a un truc qui est intéressant, et moi c'est peut-être la limite que je vais avoir avec le film, même si je l'ai beaucoup aimé,
peut-être la même après.
C'est que tu parles du fait que le film, du coup, condense un livre de 1000 pages en 2 heures.
Je pense, le même.
Donc forcément, je n'en sais rien, je n'ai pas lu le livre, mais ils ont voulu caler toutes les scènes justement de violence pour montrer à quel point cette société est violente envers cette femme. Mais c'est vrai que du coup, ça ne fait pas forcément catalogue, mais cette violence s'enchaîne, elle est constamment, comme le disait Margot, en train de subir, très violent tout le temps. Et il y a un petit côté un peu misérabiliste qui peut s'installer malgré le film. Voilà, je ne pense pas que ce soit l'intention, je pense que c'est le côté, pareil, j'ai 1000 pages à mettre, donc je vais tout mettre, surtout les moments forts. Maintenant, Les moments forts étant des moments de violence, ça fait que le film, forcément, ne te laisse jamais respirer. C'est peut-être probablement sa limite. Même s'il a quand même plein de moments beaux, plein de moments où ça s'échappe un petit peu, où tu peux avoir un espoir, mais le film sert à dire, tant que les hommes existent, il n'y aura pas d'espoir pour les femmes. Je trouve que le film est très, non pas misandre, parce que c'est con, mais en tout cas très fataliste sur le sort réservé aux femmes. Ce que dit ce film-là, c'est que rien n'a changé, qu'on te parle d'une situation qui s'est passée il y a 2 siècles, mais qui existe encore maintenant. Et c'est la coupable désignée par défaut et par essence. C'est une tristesse absolue.
Moi, je savais pas que c'était adapté justement d'un bouquin de 1000 pages.
Moi non plus, c'est toi qui me l'as appris.
Non, mais je le savais pas. Et en regardant le film, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème dans l'écriture. C'est-à-dire que les personnages, notamment Antek, changent d'avis trop souvent sur Yenya. C'est-à-dire à un moment, la scène, il va dire « je suis pas trop avec », après il va dire machin. Et je sentais qu'il y avait un truc qui allait...
Que ce soit un défaut d'écriture, moi je trouve ça très logique hein, comme caractère masculin. Hein.
En fait, il y a trop de trucs, il y a trop de faits qui se passent de manière trop abrupte, comme tu dis. Et je me suis dit, mais c'est pas normal. Surtout qu'en plus, j'avais l'impression que les scènes, moi, qui m'ont le plus marqué, c'est soit quand il y a Yenya qui se fait, Yagna qui se fait mater par tout le monde et donc du coup elle est violentée, que ce soit moralement comme physiquement, soit les scènes où Yagna n'est pas là et on est juste chez les paysans. Et tout ce qui se passe aux alentours, je sentais j'avais pas de base, j'avais pas de fondement et ça m'intéressait pas des masses tant que je pensais que ça s'incrustait pas très bien. Et en fait, il s'avère que le bouquin de 1000 pages, que je n'ai pas lu, hein, mais je me suis renseigné dessus, en fait, le bouquin de 1000 pages, Yagna n'est juste que tertiaire. C'est-à-dire que le bouquin de 1000 pages le sert juste à analyser avec ce problème qui est Yagna, toute une société paysanne. Loin des grandes villes, loin des grandes richesses, et comment cette mini-société s'auto-préserve dans une forme de culture de l'ancien temps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on sent que, moi, dans le film, je sens que c'est ce qui intéresse, en tout cas, les réalisateurs et réalisatrices. C'est-à-dire que, dès lors qu'ils parlent de la société paysanne, c'est-à-dire de leur fondement et de leurs principes à eux, et qui ne sortiront jamais de ces frontières-là, moi, ça m'intéresse de ouf. C'est-à-dire que, par exemple, quand le père parle de son fils, d'héritage et de trucs qui semblent tellement lointains, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose qui se passe dans un petit village français où il y a trois chaînes sur la télé, etc. Non, mais tu vois, c'est un peu des clichés que je dis ça, mais qui s'auto... voilà, il regarde ce qui l'intéresse, il met BFM toute la journée sur la télé, il s'intéresse à rien, tu vois, et à côté, pour eux, c'est ça la vie. C'est ça comme ça qu'il faut réfléchir. Et j'ai l'impression que ça parle de ça aussi beaucoup.
Oui, ça parle de l'entre-soi, évidemment.
Mais je trouve que... Dès lors qu'on parle avec la jeune fille et qu'on revient sur ça, etc. En fait, je trouve que ça fait des césures et je sens que c'est coupé, justement. Et ça me sort, justement, du récit, là où, en fait, je trouve que les deux choses qui sont racontées m'intéressent de ouf. Donc, j'ai un problème avec le fond, là où je trouve que ça parle de plein de choses. C'est juste que je trouve que l'écriture... En fait, ça aurait peut-être mérité de durer encore une heure de plus.
Oui, non, mais je pense qu'ils n'ont pas, pas besoin parce que c'est intrinsèque au récit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une scène de ça, de ça, de ça pour t'expliquer comment se passait cet entre-soi paysan au 19e siècle parce qu'il est là, il est présent en fait tout le long du film. Donc je trouve que c'est à nous de voir les éléments qui nous sont montrés pour arriver nous-mêmes à dessiner... cette société qu'on veut nous représenter. Par contre, là où Thierry, t'avais un problème avec ce trop plein de violence et de on peut pas respirer, moi j'avoue c'est ce que j'ai aimé dans le film en fait. Et je pense c'est ce trop plein de violence de oui c'est totalement fataliste et en même temps on sait que ça existe, c'est encore là, ça existe encore, hein. Peut-être d'une autre manière mais c'est toujours là. Et je pense ça. Toutes ces scènes ultra-violentes associées à la BO où on a parfois des musiques très très douces, très presque d'ambiance, et des musiques qui matraquent. Hein. Vraiment, on est sur quelque chose de très très fort.
Oui, en festival, on fait des pogos, quoi.
Et du coup, tout ça participe à ce trop-plein qui, en tout cas, moi, ne m'a pas gênée parce que parce que j'aime quand un film accepte d'embrasser totalement sa violence, sa fatalité pour te dire, bah c'est comme ça, il n'y a pas d'échappatoire et c'est ainsi.
J'aime aussi hein, moi ce trop plein.
Je suis assez d'accord. En fait, c'est même pas tant que ça me pose souci, c'est ça me pose problème en première lecture et après quand quelque chose se pose problème, il faut se demander pourquoi. Et là, enfin oui, effectivement, la première réflexion qui me vient, c'est ça. Ça me pose souci, Guillaume Dangerous, parce que ça dit quelque chose et ça dit qu'il n'y a aucun espoir possible pour cette personne. Donc, de toute façon, on t'amène vers sa fatalité. Ça m'a fait pas mal penser, je ne sais pas si vous l'avez lu, à Mangez-le si vous voulez de Jean Telet. Et le principe de Mangez-le si vous voulez, c'est ça. C'est un homme qui se réveille un matin. C'est un peu comme Vincent doit mourir, d'une certaine façon, avec tout d'un coup, les gens se mettent à l'attaquer. Et ça va aller sur les gens vont l'attaquer, vont le tuer, vont le bouffer, vont se ramasser ses restes. Et dès le début, il est établi que ce mec va mourir. C'est comme ça.
Tu veux dire qu'aucun film est original et tous les films s'inspirent d'autre chose, c'est ça?
Absolument, tout s'inspire de... Ah oui, mais ça, je le soutiens.
Rien se crée, tout se transforme, les films.
Exactement. C'est ce que disent les grands industriels aussi. Mais oui, mais effectivement, mais c'est une lecture assez brillante, malheureusement. Alors après, oui, ça doit passer par un parcours de croix pour le spectateur qui est d'accepter de subir ça avec le personnage en se disant que de toute façon, il n'y aura sûrement rien qui se profilera derrière. Et ça, en plus, on le voit parce que malgré tout, malgré ce qu'on en pense, et c'est là que le film n'est pas si caricatural que ça, les personnages se questionnent sur ce qu'ils font, tout en restant dans leur écrin de société parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans leur bon droit. On a par exemple ce passage où justement Yagna couche avec Antek pour la première fois, et là je dis bien coucher. On n'est pas dans la scène de viol que je cite un peu plus loin, on est dans une scène d'amour, ils sont tous les deux cachés dans du foin, une botte de vin, dans la petite cabane dans le jardin, avec plein de foin dedans.
La petite cabane dans le jardin.
Et le père, donc, débarque devant ça, les observe, voilà, les voit coucher ensemble, réalise aussi que là, ce à quoi il assiste, c'est pas ce à quoi il a droit. Donc, il se rend compte qu'il y a un problème et il met le feu à cette botte de foin. Et ensuite, on a un plan sur son visage. On a un plan sur son visage qui se passe en deux temps. La caméra reste fixée sur lui. Au début, on voit la colère. Puis tout à coup, on voit son regard qui change et on voit la culpabilité. On voit l'homme qui réalise ce qu'il vient de faire sous le coup de la colère. Et on a tous ces passages-là, on a les moments où ils assiègent aussi quelque chose, où ils se battent contre leur gouvernement, où tu te dis, enfin c'est quand même, il y a des soldats qui les attaquent, qui sont là à vouloir les frapper avec des trucs, les autres sont avec des fourches, tu sens que ça peut mal se passer, et pourtant, quand il y a un premier mort, tout s'arrête et se questionne sur ce qu'ils font.
T'as ça aussi avec Antek, vers la fin, où quand t'as tout le village qui se décide d'aller la chasser, et que t'as, je sais plus quel personnage qui parle à Antek en disant, mais tu peux pas laisser faire ça, enfin non. Et tu vois sur son visage, c'est vraiment, tu vois sur son visage qui sait que c'est pas bien, mais qui peut pas. Il se dit, moi, si je parle, derrière, je perds tout. Tout ça pour finir sur le fait que, oui, même si il y a toujours cette notion quand même de culpabilité quelque part, où il se remet en question sans pour autant changer, ce qui dit aussi énormément finalement sur la société à cette époque-là.
Oui, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on te dit aussi que c'est pas l'individu, malheureusement, qui pourra changer la chose parce qu'il est lui aussi broyé par le système, mais bien tout un système a changé. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme dirait Dorothée, pour terminer, quand on dit « Où est passée la jeune fille aux cheveux d'or ?» Elle a avalé la machine avalée.
C'était nos avis et notre analyse de La jeune fille et les paysans. C'est certainement encore dispo dans votre salle près de chez vous. N'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis. On va passer maintenant à la seconde rubrique de l'émission. Les C'est quoi le plan ?
Ah ! Voici le plan.
Oh, moi, je comprends rien.
Si, attends.
Pour faire simple, on prend un plan dans un film et on en parle pour parler du film. Pour ce premier C'est quoi le plan ? Thierry a voulu nous parler d'un film civilisé.
Ah, civilisé, c'est le terme. Et d'ailleurs, on va pas appeler ça C'est quoi le plan ? On va appeler ça C'est quoi les plans, si tu me le permets, mon cher Louane.
Je t'en prie.
Voilà, parce que j'avais envie de parler de ce film à travers deux plans, pour une raison assez précise. Le premier plan dont on va parler, avant justement d'expliquer de quel film il est question, c'est un plan donc d'un canapé. Le plan d'un canapé sur lequel on voit un homme qui est en train de regarder des vidéos sur Internet. On ne sait pas exactement ce qu'il regarde, mais ça a l'air amusant. Et tout à coup, on voit donc le personnage principal du film, joué par François Civil, qui s'approche de cet homme, qui est son conjoint. Il s'assoit à côté de lui met la tête sur l'épaule et ils regardent les vidéos ensemble et ils rigolent. Le film s'appelle Pas de vague. Le film raconte donc l'histoire de Julien. Julien étant donc joué par François Civil, qui est un professeur qui se retrouve accusé, non pas d'agression sexuelle, mais de harcèlement sexuel envers une de ses élèves. Voilà. Je laisse le postulat là pour l'instant. Pourquoi je prends ce plan-là ? Parce que le film a une certaine intelligence, c'est qu'il a le don de nous laisser à distance de ce personnage, donc de ce Julien. Quand il nous montre le plan sur ce canapé, la caméra se rapproche de ce couple pour justement montrer leur quotidien, mais bizarrement, au moment où elles pourraient passer le surcadrage, donc cet écran d'ordinateur que nous voyons de dos, la caméra se floute au noir. Le film a toujours le don d'essayer de nous dire « Ne vous attachez pas à ce personnage, je vous le présente, vous allez avoir de l'empathie pour lui, ce qui est naturel parce que vous voyez ce qui se passe. » Nous voyons effectivement ce qui se passe au début du film, une scène de classe où Julien va dire un terme relativement déplacé, on va apprendre que ce n'est pas le premier qu'il a fait, que c'est à chaque fois fait avec une maladresse assez relative et que nous comprenons pourquoi il l'a fait malheureusement, pourquoi ce n'était pas très malin ou pourquoi c'était aussi une tentative de faire quelque chose qui n'a pas abouti. Alors, le film nous dit immédiatement que ce n'est pas le harceleur que l'on prétend puisque nous avons assisté à la scène, tout est basé sur la confusion. Mais le film essaye quand même de nous laisser à distance. Quand Julien essaye de prouver son avis et que nous sommes d'accord avec lui, on nous rappelle quand même qu'il fait aussi pas mal de conneries dans sa manière d'aborder les jeunes, dans sa manière de faire les choses. Donc, on essaie toujours de garder ce moment de distance avec lui pour nous dire « Observez bien la situation, nous sommes en train de parler d'un système qui ne marche pas, d'un système qui ne marche pas, car il n'accompagne pas les professeurs qui peuvent être accusés par des dénonciations calomnieuses, mais aussi parce qu'il n'accompagne pas les jeunes qui sont perdus, enfin, qui sont confus face à une situation, soit parce qu'ils pensent vivre quelque chose, et c'est d'ailleurs tout le sujet du film, c'est que la jeune femme qui l'accuse n'est pas une coupable, n'est pas, elle est aussi victime d'une situation, elle est aussi victime d'une incompréhension d'intention, de quelque chose qui la dépasse totalement, d'une violence que l'on voit plus tard, mais aussi n'accompagne pas les jeunes qui vont s'emparer de la situation, créer des situations, et tout cet établissement laisse les choses faire parce qu'il ne faut pas faire de vagues. Maintenant, parlons du deuxième plan. Le deuxième plan, c'est le plan de fin. À la fin du film, après un horrible carton qui nous dit que c'est inspiré d'une histoire vraie, visiblement celle du réalisateur, mais je m'en fous royalement de ça, tu es censé me présenter une situation, pas me dire « c'est parce que ça m'est arrivé, donc c'est vrai », ça je m'en fous, c'est pas bien de me faire ça à film. Le film fait quelque chose, et quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est-à-dire qu'après avoir plus ou moins, de manière intelligente, dévoiler son sujet. Moi, je trouve que ça se tient relativement bien dans ce que ça présente. On peut discuter du fond, mais en tout cas, il parvient à montrer une situation, à la pousser à son bout et à montrer justement comment ce système peut aussi détruire des personnes. Le film nous met une scène de danse, à laquelle nous assistons d'abord via un téléphone, puisque les élèves vont se moquer de ça lorsqu'ils découvrent que le prof fait aussi des soirées arrosées, voilà, oh, c'est rigolo. Et on va revoir cette scène-là où on voit ce prof, Julien, qui est avec son conjoint, qui danse de manière enamourée, sur de la musique techno, c'est génial, tout le monde s'amuse, tout le monde est beau. Et surtout, ce plan-là, donc ce plan long de cette fête, qui va avancer, où la caméra tourne, nous dit autre chose. Le premier plan nous disait... Essayez de rester à distance, observez tous les personnages, ils sont tous plus ou moins victimes de ce système, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la hiérarchie qui pose problème, et ce n'est pas les individus qui sont à l'intérieur de cet établissement. Mais pourtant, le film à la fin nous montre un prof qui était heureux alors qu'il vient de faire un burn-out, alors qu'il vient d'hurler, alors qu'il vient de menacer un élève parce qu'il a craqué. On nous montre un prof qui était heureux, on nous montre ce pauvre petit prof parti trop tôt, ce pauvre Julien, la seule et unique victime de ce système, ce prof si joyeux, regardez ce que vous avez détruit, système horrible. Et les enfants, qui pourtant, normalement, selon le film, sont censés être aussi des victimes du système, on s'en fout. On nous rappelle que c'est lui, la victime, et pas les autres. Donc le film me pose problème parce qu'il choisit de prendre un parti tout à fait centré d'un côté, là où justement, sans dire qu'il avait le devoir d'être neutre, la manière dont il réussissait à traiter à peu près tous les portraits de manière équitable, se retrouve totalement biaisé par ce plan-là. Donc, pas de vague. C'est quand même bien dommage de se foirer sur un seul plan de fin. Et toi, Louane, c'est quoi le plan ?
Le premier plan dont je souhaite vous parler ici est celui qui met en scène deux petits vieux mangeant face à face, chacun à une extrémité de la table. Toutefois, on entend un rire vraiment encombrant provenant du hors-champ, si étouffé qu'on présume qu'il s'agit d'un rire d'un voisin. Les deux petits vieux ne semblent pas dérangés par ce bruit parasite, comme s'ils en avaient l'habitude. On va rapidement comprendre pourquoi. En effet, il s'agit du premier plan du court-métrage intitulé « Les humains sont cons quand ils s'empilent », réalisé par Lorraine Fernandez. Le procédé utilisé est simple, reproduire en stop-motion de vrais habitants dans un immeuble après avoir recueilli leur témoignage anodin du type « On a un vrai problème avec le rire de notre voisine » ou « Notre voisin allume sa perceuse tous les jours, on se demande ce qu'il fait ». Sans trop vous en dire, car il ne dure que 5 petites minutes, l'utilisation du stop-motion permet à la réalisatrice d'exagérer les véritables témoignages. Ainsi, tous les dérangements des habitants finissent par se relier pour aboutir à une absurdité totale de bruit et de cacophonie. Le rire provient de cette surabondance, mais aussi du fait que ces témoignages sont réels. Ils sont enregistrés avec un pauvre petit téléphone et mis en scène par le stop motion avec des petites pelotes de laine, comme le précise le carton texte de début. Mais du coup, oui, comme ces petits vieux du début qui ne réagissent plus, on se dit que les humains sont cons quand ils s'empilent et que nous le sommes nous aussi, car cette même petite vieille qu'on voyait face à face à son mari en train de juste subir le bruit incessant de sa voisine, eh ben il s'avère que elle passe l'aspirateur sur ses murs et que ça dérange aussi sa voisine. Voilà, le court-métrage, si jamais vous voulez le découvrir, il dure que 5 minutes et je vous mets le lien Vimeo du court-métrage dans la description. Et comme cette émission est exceptionnelle, on a 3 C'est quoi le plan parce que Margot a souhaité nous parler d'un tube.
Oh, joli. Alors, nous sommes du point de vue de notre protagoniste et le plan, c'est un long tunnel noir. Une sorte de long tunnel de pierre où la personne est allongée dedans et est coincée dedans. Là, tout de suite, vous me dites, ça vous fait drôlement penser à Méandre. Sauf que ce n'est pas Méandre, ça s'appelle Haze. C'est sorti en 2005 et ça ressemble quand même un peu, beaucoup, énormément à Méandre. Donc, on suit cet homme qui se réveille tout d'un coup, sans savoir où il est, et il se retrouve coincé dans un long tunnel, sans échappatoire, et son seul moyen, c'est d'avancer. Et ça dure, ça dure 50 minutes. Et c'est tout ce que Méandre, enfin après réflexion, c'est tout ce que Méandre n'arrive pas à être. C'est-à-dire que on est à un niveau d'anxiété qui est assez phénoménal, puisque on ne va rien savoir en fait de ce personnage. Son seul but, c'est d'arriver à se sortir vivant de là, en passant par des endroits exigus, en passant par des endroits où il y a des pièges, où il y a des choses coupantes. Il se blesse, il se prend des coups. Et même visuellement, il y a toute une scène de torture qui, j'ai l'impression, dure une demi-heure alors que ça doit être peut-être simplement 10 minutes du court-métrage et qui est absolument folle. Et c'est réalisé, j'en profite, réalisé par Shinya Tsukamoto qui a également réalisé Kotoko, qui joue aussi énormément sur le ressenti, sur le malaise, le mal-être, la folie qui émane de là. Et donc voilà, je voulais en profiter de parler de ce film-là parce que je trouve qu'il est extrêmement réussi, qu'il m'a beaucoup trop rappelé Méandre, mais vraiment sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points, même sur certains pièges qu'il peut avoir, etc. Donc je trouvais ça intéressant et je trouve ça beaucoup plus réussi, plus court. Et je vous propose de vous plonger dans ce joli labyrinthe de pierre peu agréable finalement.
Et si vous aussi, comme Julia Ducournau, vous aimez coucher avec des machines, sachez que Shinya Tsukamoto a aussi réalisé Tetsuo. C'est très sexuel et très robotique et c'est très sympa. Mais pas à mettre devant tous les yeux.
Et est-ce qu'après les 50 minutes de court-métrage, est-ce qu'il a trouvé le code Haze?
Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Hein.
Le genre, il était déjà pas fait sous code Haze, juste que ça a l'air de raconter.
Dans le dernier épisode, on vous a consulté pour essayer de savoir si vous voulez nous donner des sujets pour le C'est quoi le plan. Donc, c'est ce qu'on appelle le C'est quoi le plan du public. C'est-à-dire que vous avez un petit sondage en dessous de Spotify ou un petit sondage dans la description pour nous demander et nous proposer des films, que ce soit à l'ensemble de l'équipe ou à un chroniqueur spécial. On a obtenu 2 réponses. On va prendre une pour aujourd'hui et la prochaine peut-être pour plus tard. La première nous vient d'Antoine D, qui nous demande un C'est quoi le plan sur Midsommar. Donc de ce fait, on va faire un petit tour de table et essayer de tirer un plan de nos souvenirs de Midsommar, car on ne l'a pas revu, et essayer de lui expliquer pourquoi ce plan.
Rapidement, un plan sur Midsommar qui me marque, c'est un plan sur des arbres, tout simplement. Un plan sur une forêt. Un plan qui se situe au moment où nos chers petits compagnons sont arrivés au milieu de la secte, j'appellerais ça comme ça, ne m'en voulez pas, ils sont arrivés du coup dans cette communauté, ils sont dans une clairière, et il y a un moment où Ari Aster filme tout simplement des arbres au fond, et qu'est-ce qu'on voit sur ces arbres bizarrement? Ne vous en faites pas, vous n'êtes pas défoncé, vous n'êtes pas sous alcool pour certains, vous êtes tout simplement doté de Dieu, et oui, parce que ces arbres forment un visage. Et pourquoi ce plan est important malgré moi? Parce que pour le coup, Ari Aster veut insuffler dans son film une dimension religieuse, une dimension fataliste à l'arc de tous ses personnages. Et je trouve que pour moi, c'est un des plans les plus importants du film, car on voit il est repris avec la fresque que on peut voir au début de ce film. On voit tout le côté déification de la nature, déification du destin qui va poursuivre ces personnages. Et cette poursuite, pour moi, elle commence bien avant ce moment-là, mais elle commence réellement à devenir grave à partir de ce moment-là. Et le fatum de l'histoire est lancé dès ce premier plan.
Margot, est-ce que tu as, toi, un plan de Midsommar ?
Alors, le plan que j'ai en tête, c'est... Alors, si j'arrive à recontextualiser dans la timeline du film, je pense que c'est quand le personnage principal, joué par Florence Pugh, découvre que son petit ami couche avec une autre femme et qu'après, elle retourne dans cette sorte de maisonnette qui est une sorte de dortoir où elle est avec d'autres femmes et qu'elle se met à pleurer de plus en plus fort, hein, de plus en plus fort, et que petit à petit, elle est accompagnée par toutes les femmes autour d'elle et qui se mettent aussi à pleurer en même temps, qui est un très très long, où on a vraiment la sororité présente et toutes les femmes qui embrassent la tristesse qui sort de là et qui viennent en soutien avec elle, qui la comprennent. Et je trouve cette scène très jolie et qui en plus des nombreux thèmes qui sont abordés, qui est celui qui représente, je trouve, le mieux l'esprit de sororité qui se dégage de ce long métrage.
Thierry.
Alors c'est assez marrant parce que le plan qui me revient en tête là tout de suite fait pas mal écho à celui que tu viens de décrire, Margot. Alors moi, comme tout adulte ayant une vie sexuelle active, j'aime bien le cul, donc quand il y a des scènes de cul au cinéma, c'est chouette. Voilà. Non, alors évidemment, c'est un plan qui vient d'une scène de sexe. Alors évidemment, Midsommar n'est pas un film très fun sur ce sujet, hein, donc non, je ne suis pas en train de dire que vous allez vous rincer l'œil, bande de petits cochons. Mais ce qui m'intéresse, c'est de me dire que de toute façon, ce plan-là peut être totalement interchangeable avec quasiment tous les plans du film, puisque ce que Ari Aster fait pendant tout Midsommar, on le voit d'ailleurs dès le début, c'est pas le plan que j'ai choisi, avec la caméra qui se retourne, hein, qui est très explicite, c'est qu'il passe son temps à faire des miroirs de ce qu'il veut dire, et justement, alors il ne dit pas tout et son contraire, mais il fait un miroir entre la soi-disant histoire principale qui se passe, c'est-à-dire des jeunes qui se sont absorbés dans une secte et qui découvrent qu'ils sont au milieu du jour, et pas la repentance, mais là, pour le coup, on peut le dire, vraiment malheureusement, la jeune fille et les paysans, la renaissance du personnage de Florence Pugh, qui doit passer par deux choses. Elle doit passer par une acceptation justement de son sort et du fait que certaines portes doivent se fermer, mais aussi par l'annihilation, normalement sensorielle, mémorielle, de ce personnage, de tout son cercle, c'est-à-dire son copain, c'est-à-dire ses amis, toutes ces personnes qui la rappellent à quelque chose qui a été un vécu horrible. Donc le film, par justement l'utilisation de cette scène, va lui permettre d'avoir cette renaissance. Le plan, moi, qui m'intéresse, c'est donc le plan de cette scène de sexe où justement on a ce personnage qui couche avec quelqu'un et on a effectivement, comme dans la scène où elle pleure, toutes ces femmes qui vont se mettre nues autour d'elle et qui vont pousser les cris de jouissance avec elle, l'accompagner justement là-dedans. Et donc là, on a justement exactement ce miroir qui est en train de s'opérer. On a une personne victime de la relation sexuelle, puisque elle ne sert juste qu'à être aussi au programme de cette dégustation sordide, mais on a ce personnage qui, du coup, est encore en train de gagner en puissance par certains pouvoirs. Alors, effectivement, on peut trouver ça voyeuriste, mais c'est hyper intéressant. Un exercice qui fait constamment tout le temps Ari Aster est autant un cinéaste très intelligent qu'un petit malin qui fait son exercice à outrance, et c'est ce qui le rend pour moi intéressant. Mais je trouve que ce plan-là, effectivement, comme beaucoup de plans du film, hein, qu'on pourra évoquer, relate encore une fois sa volonté de mise en miroir du destin de son héroïne avec le destin de son groupe d'amis qui doit forcément en passer par là, parce que si c'est pas une secte, c'est elle qui s'en débarrassera.
Merci. Moi, bon, c'est quoi le plan ? Il va être très simple. C'est toute la production du film.
Film notamment... Quand j'ai écrit réalisé par Ari Aster.
Presque, parce qu'en fait, après toute une introduction, on nous montre une maison où il y a l'air de passer un drame, étant donné que toutes les personnes de la maison sont mortes, que les pompiers arrivent, qu'on a à travers chaque fenêtre les lumières rouges des pompiers, etc. Il va terminer toute son introduction qui nous dit absolument rien sur le pourquoi du comment ça s'est passé et qui sont ces gens, etc. Nous introduire en fait le personnage qui est il y a le personnage de Jack Raynor, etc. On nous introduit en fait beaucoup de contexte sans jamais nous expliquer pour terminer avant justement ton réalisé par Ari Aster et le nom du film Midsommar par un long travelling avant sur Jack Raynor serrant quelqu'un dans ses bras, pleurant, un long travelling avant qui va pas se diriger directement vers l'acteur et vers la personne qui est morte qui tient dans ses bras, etc. Mais pour rentrer dans ton sens, Thierry, et ton niveau de miroir, etc., se plonger vers la fenêtre avant de nous révéler le nom du réalisateur et le titre, et ensuite nous révéler tout ce qui s'est passé et pourquoi ces personnes sont mortes. Et ça, je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué parce qu'on est dans un questionnement de 5 minutes sur pourquoi on nous montre ça. Un questionnement et des scènes de films, des plans de films qui vont jamais résonner pareil après. On a l'impression qu'on change de genre dès lors qu'on passe par la fenêtre.
Je trouve que ce plan de la fenêtre, si je peux me permettre d'aller en extension, dit adieu à Hérédité aussi.
Aussi, ouais,
il reprend,
exactement.
Il reprend une thématique qu'il a déjà fait dans son film précédent, qui est justement le milieu familial extrêmement dangereux, et il s'en extirpe pour t'amener vers une autre phase de l'horreur.
Exactement. Et ben, merci à tous pour vos C'est quoi le plan?
Et pas de rien.
On va maintenant passer à la séance cinéma.
You know all about women, don't you?
Not nearly enough.
I guess they all fall in love with you.
Not all of them.
Just most.
Not even most.
D'un film qui a été proposé par Alexei lors d'une précédente émission et qu'on a tiré au sort dans la petite boîte à personnes que vous aurez juste après. C'est On murmure dans la ville de Joseph L. Mankiewicz, qui raconte l'histoire de Noah Pretorius, joué par Cary Grant, un gynécologue réputé et chaleureux qui enseigne à la faculté de médecine et qui dirige une clinique privée où il privilégie les relations humaines avec ses patientes. Il tombe amoureux de Deborah Higgins, femme célibataire en difficulté qu'il épouse. Il accueille également son beau-père, Arthur Higgins, éloignant ainsi ce dernier de son frère abusif John. Le docteur Pretorius est respecté par ses collègues et ses étudiants, à l'exception du professeur Elwell, jaloux, qui ouvre une enquête sur son passé trouble, notamment sur la collaboration passée avec un homme nommé Shunderson dans une boucherie reculée. Pour commencer sur On murmure dans la ville de Joseph L. Mankiewicz, Louis, qu'est-ce que tu en retires?
Oula. Alors, qu'en retire de ce film? Bon, il faut savoir que c'est mon premier Mankiewicz. Alors, je sais que c'est un grand réalisateur du cinéma, mais je m'étais jamais confronté à une de ses œuvres. Ça m'a fait un peu bizarre. Donc, le film raconte, comme l'a dit Louis en préambule, l'histoire de ce docteur Pretorius, qui est un gynécologue dans une Amérique plutôt ni urbaine ni rurale. J'arrive pas trop à situer où ça se passe. Mais bref, il est obligé de venir en aide à plein de femmes. Donc il y a vraiment un regard de ce médecin, de ses pratiques sur ces corps de femmes. Et il va s'amouracher d'une femme qui est enceinte malgré elle. Et donc du coup, il va décider de se mettre avec elle, etc. C'est un film qui, moi, m'a provoqué un grand sentiment de bien-être sur la fin, où je me suis dit ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de suivre ce personnage que je trouve vraiment sain, attachant. Il y a vraiment une espèce de chasse à l'homme pendant tout le film. On doit savoir s'il a fait quelque chose de mal ou pas, parce que tout le postulat du film, c'est qu'il est accusé d'avoir fait quelque chose de grave, mais quoi? Eh ben, on ne sait pas. On suppose qu'il y a plein de choses, notamment vis-à-vis aussi de son majordome, mais on n'aura que la réponse à la fin du film. Et du coup, pendant tout le film, on s'attache malgré tout à lui parce qu'il a une réelle volonté humaine de dire « Non, mais écoutez, vous êtes là avec vos jolis petits principes, etc. » Tout ça est relativement archaïque. Moi, ce que je vous propose, c'est nouveau et c'est un tout petit peu plus sain pour vous, pour votre santé, etc. Et moi, c'est ce qui m'intéresse avant tout. Et du coup, ça rend ce personnage assez attachant et ça nous fait tenir le film, même si je dois l'avouer qu'il y a vraiment une bonne heure de film où je me suis dit « Ok, j'ai compris. » Et du coup, quel est l'intérêt de la suite? Et c'est qu'à la fin, je me suis dit « Ah, il est là l'intérêt, je l'avais pas vu depuis le début. » Mais donc du coup, j'ai eu une petite heure d'ennui malheureusement sur ce film, même si la fin vient redynamiser tout ça, avec cette scène d'interrogatoire à la fin, juste avant un concert, parce que oui, en plus d'être médecin, cet homme est définitivement parfait. Il est médecin, il est humaniste, et en plus de ça, il est artiste. Eh ben dis donc. Donc du coup, juste avant un concert, on l'interroge.
Il sait découper la viande.
Et il s'est fait... Je trouve que c'est pas une œuvre qui est vraiment réalisée d'une main de maître. C'est-à-dire que oui, ça montre les plans montrent des personnages, les montrent faire des actions, etc. C'est plus l'écriture, moi, qui me fascine. Alors, on m'a souvent survendu Mankiewicz comme un très grand réalisateur visuel qui savait faire plein de choses, qui savait construire des récits de manière très compliquée et tout. Moi, je suis plus fasciné par son écriture que sa réalisation, que je trouve pour le coup assez plan-plan. Donc voilà, j'aimerais bien savoir l'avis de mes collègues vis-à-vis de tout ça.
Margot ?
Je suis assez d'accord sur, j'avoue, visuellement, il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux. Par contre, au niveau de l'écriture, ce qui est intéressant, c'est que dans le résumé, on te parle de ce docteur. Et en fait, le premier plan du film, ça n'a aucun rapport. C'est un autre professeur qui accueille une femme qui attend là depuis on ne sait combien de temps et qui parle justement de ce professeur-là. Et une sorte de mystère s'installe autour de lui en mode qui est-il ? Qu'est-ce qu'il faisait avant ? Est-ce qu'il faisait ça ? Il était là ? Est-ce que c'était un charlatan ? Enfin, toutes ces questions-là, et on t'instaure déjà, dès le début, une sorte d'ambiance ou de postulat qui est « cet homme a quelque chose à cacher ». Et je trouve que Mankiewicz joue beaucoup là-dessus tout le long du film, parce qu'en fait, on est face à un professeur qui est, comme tu disais, un peu parfait, en fait. Il sait tout faire, il est beau, hein, il est charismatique, il se préoccupe de ses patients, il se préoccupe de cette femme lorsqu'il fait un cours, c'est une sorte de cours d'anatomie, enfin il y avait un cadavre.
Anatomie sur cadavre.
Ouais, sur cadavre, voilà. Qui fait un malaise et du coup il lui dit de passer, de faire des examens, etc. Donc il a l'air d'être parfait et il y a quelque chose qui fait que derrière ce parfait on a toujours cette question de se demander, c'est bizarre quand même. Parce qu'il est quand même sympathique, il est très charismatique, il sait tout faire, il est chef d'orchestre. C'est quand même bizarre parce que on a toujours cette enquête en parallèle avec cet autre professeur qui veut absolument le faire tomber pour on ne sait quelle raison. Après, on apprend petit à petit le pourquoi du comment pour au final en finir par en fait, il s'est finalement rien passé. Ce qui s'est passé avant n'influence pas sur ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il a fait. Il n'a rien fait de grave. Et en fait, moi, c'est tout ce que j'aime dans le film, c'est comment on joue là-dessus pendant tout le long du film pour savoir qui est-il vraiment. Et sinon, je trouve, en dehors de ça, il y a des moments très très drôles dans le film. Je pense qu'il faut qu'on parle du moment où on s'est poilé comme pas possible dans cette scène où le professeur, enfin sa femme, lui achète plein de petits trains pour son anniversaire. Et t'as cette scène absolument folle où sont le professeur et ses deux autres amis qui sont en train de s'embrouiller pour savoir qui a commencé sur quel bip et quel bip correspond à qui. Entre le bip bip et le bip bip bip. Je trouvais cette scène extrêmement drôle.
Surtout que cette scène, pour moi, dit tout du film, donc ça, c'est chouette.
Et ben, je te laisserai rebondir là-dessus.
Non,
non, parce que pour le coup, j'avoue, ça m'intéresse.
Moi, j'allais justement en parler en premier.
Moi, j'avais un réseau de train.
Moi, je commençais sur le bip.
Moi, en fait, je voulais rebondir à ce que tu disais et aussi ce que Louis disait. C'est-à-dire que ça parle justement d'un mec qui est parfait, qui est humaniste, qui... Voilà, et à cette époque-là, en fait, être parfait comme ça, être très humaniste, etc., c'est être suspecté d'être communiste la plupart du temps, parce que c'est difficile de voir en murmure dans la ville un autre chose que une critique justement du macartisme aux États-Unis de cette époque, surtout pour un film réalisé par Mankiewicz qui a lui subi en fait cette...
pas à l'époque. Enfin, on y reviendra, mais je vois ce que tu veux dire. J'attendais que tu dises, de toute façon, le terme avant de débattre dessus. Mais oui.
Surtout par rapport au Kevin, qui a beaucoup subi et souffert de ça, d'être accusé en fait de communisme, etc. par tous. Il était accusé d'être infiltré à la solde du communiste, de ce que j'ai lu.
De toute façon, quasiment tous les réals qui justement ont refusé de jouer à la chasse aux sorcières ont été accusés de complaisance.
C'est ça, voilà. Et
sauf Elia Kazan, parce que tu es un gros vendu, Elia Kazan.
Et surtout, si tu nous écoutes,
si on aime tes films.
Surtout qu'ici, il met en scène un universitaire aux airs de fouine médisante qui enquête sur les faits et gestes d'un de ses collègues irréprochables, là, qui a priori a quelque chose à cacher. Est-ce que c'est du charlatantisme? Est-ce que c'est de la compétence? Est-ce que c'est un meurtre? Mais en fait, c'est juste, il cache un secret. Il cache un secret de quelqu'un qui va l'accompagner pendant tout le film, qui va tenir sa valise, etc. Et un peu l'aider. Sauf qu'en fait, ça va rejoindre en fait tout ce qu'on pense du bonhomme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'humaniste et qui cette personne qui l'accompagne, c'est une personne qui l'a aidé.
It's a beautiful day in the neighborhood.
Oui.
Moi aussi, je vous ai fait repartir sur d'horribles souvenirs de cette bouse avec Tom Hanks.
Mais du coup, ouais, non, je vois tout ça dans le film, je vois ce que ça me raconte, je vois ce que ça en dit. Moi, à côté, pour un peu un peu effleuré, quelque chose qui me gêne un petit peu. C'est d'un côté ultra personnel, c'est-à-dire que je m'attache très très peu au personnage, c'est-à-dire que je suis juste spectateur de quelque chose qui se passe devant moi, mais j'arrive pas à m'identifier, j'arrive pas à être dedans. Voilà, Cary Grant, moi c'est pas pour moi. À côté, il y a Jade Crane qui joue un personnage que je trouve, bah dans le fond, elle est pertinente dans ce que ça veut raconter dans certains endroits, mais son personnage je le trouve assez transparent quand même, parce que c'est quand même toute l'intrigue de l'enquête qui tourne autour du personnage de Cary Grant qui surpasse le choc.
Même l'écriture de la relation entre les deux n'est pas toujours.
Voilà, non.
C'est très français.
Voilà, c'est ça. Elle est d'utilité pour raconter la surface et l'intrigue principale du film, mais c'est très transparent. À côté, il y a le comic relief qui est joué par Walter Slezak, qui joue le violoncelliste.
Ouais, un autre professeur justement avec lui.
Voilà. Qui a un comic relief, qui est rigolo. Moi, il m'a fait ce... J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai pas sorti ça pendant que je le regardais, parce que sinon, on va dire... Oh. Mais il m'a fait penser à Wayne Knight dans Space Jam. Et à côté, dans cet humour des bip-bip, dans ce dialogue aussi avec sa femme, qui ils sont jamais d'accord sur tout, ce dialogue en ping-pong, en fait, je trouve ça redondant et ça m'a pas convaincu. Mais à côté, tout le message de fond sur le macartisme, je trouve intéressant, quand bien même ça devrait pas durer 1h50.
Ah, moi, je trouve ça passionnant que tu trouves ça redondant, parce que c'est exactement pour moi ce que le film essaye de faire. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Il y a un moment, justement, où ils parlent entre eux et on rigolait du fait que c'était oui, non, oui, non, oui, non. C'est ce que tu disais toi-même. Et je pense que c'est là que le film m'a recueilli de nouveau et que j'ai fait, ah oui, non. Mais oui, en fait. C'est clairement ce que le film essaye de faire. Et ça revient sur cette scène de train dont on parlait, justement. Donc, ils sont en train de jouer avec leur petit réseau de train. On voit un premier train, on entend un bip, on voit le train qui avance. La caméra est très ludique, elle joue avec les trains. On en voit un deuxième qui arrive, on voit les trains qui vont partout sur le réseau. Et à un moment, ils s'écoutent plus. Il y en a un qui lance son train avant les autres et bim, la petite collision. Et justement, c'est ce qu'essaie de dire le film. Personne ne communique, en fait. Personne ne se parle dans ce film. Il y en a aucun qui arrive à parler les uns avec les autres. Et c'est pour ça que je trouve que cette scène illustre parfaitement ce que le film veut dire. Mankiewicz, c'est quelqu'un qui est assez obsédé du peu de films que j'ai vu de lui par la double identité, que représente quelqu'un, le quand dira-t-on, que va-t-on vraiment penser de quelqu'un, voilà, je vais dire deux fois, notamment dans Eve, voilà, qui pour moi, pour l'instant, le meilleur film que j'ai vu de lui, qui parle justement de ça. On a également Le Limier, qui représente bien aussi cette notion-là, sur les faux-semblants.
On garde aussi cette idée d'enquête aussi.
Voilà, bien sûr, exactement. Mais alors là, tu parles de McCarthyisme, donc faut pas oublier que on est en 51, donc le film a probablement été tourné, voilà, enfin 50 ou quoi que ce soit. Le McCarthyisme, ça vient à peine de naître. C'est pour ça que c'est pas immédiatement cité. D'ailleurs, il n'est pas du tout question de soupçonner le personnage de communisme, juste de cacher des choses. Parce que, et là, le film, on en parle depuis tout à l'heure, le truc qui moi m'obsède, c'est est-ce que le film regarde bien son époque? Là, il la regarde bien, parce que Mankiewicz n'a pas encore le nom sur ce qu'est le McCarthyisme. Le sénateur est déjà en place, il fait déjà ses trucs, et il commence déjà à avoir des gros problèmes, parce qu'il a mis des actions fortes en place dès le début. Mais à l'époque où il fait le film, donc voilà, on est dans les débuts, les balbutiements, et il se doute de vers quoi ça va aller. C'est-à-dire une paranoïa totale de tout le monde sur tout le monde. Autant des gens qui, sous prétexte que quelque chose les dérange, ils vont soupçonner quelqu'un de malfaisance, mais aussi ces personnes-là qui, sous couvert qu'elles ont quelque chose, qu'elles ont peur d'être un sujet d'incompréhension de la part des autres, vont se dire « je dois le cacher ». Donc c'est pour ça que les personnages ne communiquent quasiment jamais. C'est pour ça qu'aussi, ça justifie pas mal de choses. La relation qu'on trouve forcée, parce que ce personnage décide d'épouser une jeune femme pour faire passer auprès du papa le fait qu'elle est enceinte et que le mari est pas, le papa du gamin potentiel est parti. Et il se dit, bah là, en gros, vu que finalement, elle est rêvin, il pense que le test est faussé, il lui fait croire que le test est faussé pour qu'elle, elle passe ailleurs par rapport à ça. Et lui, il va se dire, je vais l'épouser comme ça. Si elle a un enfant, ce sera pas un enfant considéré comme illégitime. C'est normal à ce moment-là que leur relation soit forcée parce qu'il y croit pas forcément lui-même. C'est presque même après, je trouve, qu'un amour se crée vraiment entre les deux. Donc au final, moi, ce truc-là, je dis, putain, c'est facile, c'est forcé, c'est un peu soudain. Juste après, je me dis, non, en fait, oui, ça suit une certaine forme de logique. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que ça montre ce personnage comme un afflux de bonté, notamment aussi le personnage dont on parlait tout à l'heure, Shunderson, qui, par exemple, à un moment, on a un chien qui s'appelle Beelzebub, voilà, un chien très énervé, on dit, il est méchant, il est naturellement méchant, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Shunderson le caresse, en fait, il lui apporte juste l'attention que personne ne lui a apporté. Et ça prouve vraiment le personnage est bon. Il n'y a pas besoin de douter de lui. Pourquoi est-ce qu'on douterait de lui? On a des annonces dans le journal qui datent de plus de 30 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller déterrer ça? C'est ça aussi que le film essaye de dire. Mais du coup, voilà, les gens ne communiquent pas entre eux. Le film ne laisse aucune place à la parole, ou c'est toujours une parole qui est controversée. Dès que tu parles, quelqu'un te contre. Dès que tu veux dire quelque chose, hop, on s'arrête là. Et ça va dans tous les sens. Même elle, par exemple, donc le personnage donc de Jan Crane, enfin Deborah Higgins, quand on lui pose des questions sur, par exemple, c'est qui cette personne dont tu es malheureusement enceinte, elle répond à peine. On comprend plus ou moins que la personne serait peut-être morte à la guerre. Mais on le comprend parce qu'on le devine, parce qu'elle donne des indices, mais elle ne le verbalise pas. Et tout à coup, il y a donc cette scène où justement, où il y a donc tout un espèce de procès qui se met en place. Alors, c'est pas un procès au sens institutionnel du terme, mais on a les autres professeurs qui veulent confronter, lui disent « Vous devez nous dire la vérité à partir de maintenant. » Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe en trois plans. On a le premier plan où justement, donc le personnage de Cary Grant, Pretorius, va raconter une partie de son passé. On va dire « Ok, je suis d'accord pour vous donner ces éléments-là. Certains éléments, je n'ai pas à vous les raconter, c'est l'autre qui va vous dire ce qu'il a envie de vous dire. » Et à certaines questions vraiment graves, enfin, pas vraiment graves, mais où vous vous dites « Ça n'a aucune importance. » Sa seule réponse est « Je n'ai pas à répondre à votre question. » Sous-entendu, le « Pourquoi vous me faites un procès d'intention ? Est-ce que penser différemment de vous, ça fait vraiment de moi quelqu'un de dangereux ?» Donc c'est pour ça. Est-ce qu'il est réellement en train de parler des suspicions de communisme, du maccartisme ? Oui. Maccartisme, oui. Suspicions de communisme, peut-être un peu moins. En tout cas, il est en train de parler d'une Amérique qui devient totalement paranoïaque, qui se renferme totalement sur elle-même et qui pense que tous les voisins sont totalement dangereux. Et c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui est encore dédié dans le cinéma. Le côté, on regarde toujours le voisin, on a toujours ces films dans la banlieue parfaite où un nouveau voisin arrive et on doit essayer de déterrer, l'anguille sous le pied. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il n'y en a pas? Ça dépend évidemment des œuvres que l'on regarde. Mais en tout cas, il l'amorce sous ces trucs-là et on sent qu'il sent quelque chose de son époque qui est sur le point de se concrétiser. Du coup, le film est un peu avant-gardiste dans ce qu'il raconte et c'est aussi peut-être pour ça qu'il nous apparaît comme confus parce qu'il n'arrive pas à comprendre encore exactement ce que c'est, l'ampleur que ça va avoir, ça ira bien plus loin par la suite. Et donc, il est en train de dire, voilà, il est en train de se passer ça, je me sens en danger, on se sent tous en danger, réfléchissons-y. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que le ressent le film. Après, c'est...
Oh oui, je pense que tu as totalement raison.
Louis, moi, j'aimerais bien revenir sur la scène du petit train. Elle vous a beaucoup fait rire, tant mieux pour vous. Moi, elle m'a profondément dérangé. Je vous avoue que dans tout le film, j'ai pas eu beaucoup d'empathie pour le personnage en fait de Cary Grant. J'en ai vraiment eu beaucoup plus pour le personnage de Deborah Higgins, du coup, qui est la femme qui est enceinte malgré elle. Et moi, en fait, cette scène m'a profondément choqué de me dire que, ok, ce mec est censé être parfait, mais il est très étrange, même dans sa manière de l'aimer. Moi, j'ai cru au bout d'un moment qu'on allait me révéler que le personnage était homosexuel et qu'il s'était marié avec elle juste pour la dédouaner de tout problème et que c'est pour ça qu'il était tout le temps entouré d'hommes, etc., et qu'il ne l'écoutait jamais vraiment quand elle avait quelque chose.
Notamment, il y a un truc que je veux pas après juste de dire, ce qui est très dérangeant malgré tout, hein, et ça c'est peut-être un trope d'écriture de l'époque, c'est qu'il décide énormément pour elle et qu'elle n'a jamais vraiment voix au chapitre, même si elle finit par accepter certaines choses parce qu'elle les ressent aussi. Tout ce qu'il fait à chaque fois, c'est quand même de son propre chef, notamment la relation avec le père et tout ça.
Exactement, c'est aussi ça qui m'a posé beaucoup de questions, en tout cas dans ce film, pas spécialement de problème, aucun problème avec ça, etc. Mais je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce que le film veut me raconter sur cette scène du train, notamment. Je suis rentré dans un profond désespoir pour le personnage du coup de Jan Crane, où je me suis dit, mais quelle pauvre femme qui est jamais écoutée, jamais prise en compte, à chaque fois on lui dit, non t'inquiète, ça va aller.
Est-ce que justement tu peux expliquer ce qui se passe avec elle justement dans cette scène et pourquoi ça t'a dérangé? Parce que là nous on a juste parlé du fait qu'il y a les gamins qui, enfin les hommes adultes qui s'amusent comme des enfants avec leur petit train et qui ne communiquent pas entre eux, mais il y a effectivement la suite de la scène où elle essaie d'intervenir.
Exactement. Alors juste avant le début de cette scène là on lui remet une lettre avec une accusation grave pour son mari et elle demande à la lire. Le professeur comment il s'appelle déjà? C'est le docteur Rodney Elwell qui accuse du coup le personnage de Cary Grant d'avoir commis quelque chose, mais on ne sait pas quoi, remet une lettre à sa femme et lui dit « Vous lui donnerez, vous ne le lisez pas, c'est pour lui, c'est une accusation, il devra venir plaider en sa faveur, en tout cas, plus tard. » Elle lui dit « Non, je veux savoir. » Donc, elle ouvre la lettre et elle dit « Comment ça mon mari, il est accusé de ça ? Je ne vous crois pas. » Bon, je vais quand même lui dire. Elle va lui apporter la lettre et quand elle veut lui apporter la lettre pour lui dire « Mon chéri, il y a quelque chose de grave qui se passe quand même. Il faudrait peut-être que t'en prennes conscience. » Lui, il ne l'écoute pas. Il préfère jouer avec ses petits trains, il préfère jouer avec ses amis. Et quand elle insiste et qu'elle est, elle en arrive à être en larmes quand même à la fin de cette scène, il ne l'écoute toujours pas. C'est uniquement quand elle va s'enfermer dans la chambre et que donc elle va mettre un terme à la conversation de ces trois hommes entre eux vis-à-vis de leur petit train, de leur petit jouet qu'ils sont en train d'activer tous ensemble. et que justement elle va couper les rails du train en fermant la porte, c'est là où il va s'intéresser enfin à elle. Mais encore une fois, ça ne sera pas de son chef elle qui a dit « je veux qu'on ait une discussion ». Elle va être obligée d'imposer une sorte de... Enfin, elle va être obligée littéralement de casser le jeu visuellement en cassant les rails du train, en fermant la porte, pour que lui s'intéresse à elle. Et du coup, j'ai vraiment pas eu beaucoup d'empathie pour ce personnage qui certes est parfait sur le papier, mais qui agit profondément comme un gamin et qui n'écoute pas les autres de manière générale.
Je pense que malgré tout, Mankiewicz a aussi un gros défaut, c'est qu'il ne la regarde pas.
Oui.
Voilà, est-ce que ça correspond à une époque ? Est-ce qu'on doit pardonner parce que ça correspond à une époque ? Ça, je vous laisse la question ouverte, on voit pas forcément.
J'ai lu un truc comme quoi il y avait beaucoup...
Mais il ne la regarde pas.
J'ai lu un truc parce que je me suis renseigné pour le film quand même. Parce que ça m'a beaucoup perturbé. J'ai lu un truc, ça sera un peu flou ce que je veux dire, mais apparemment il y avait beaucoup de griefs par rapport à l'actrice qui avait déjà joué dans un film précédent de lui que je pourrais plus dire. Mais du coup, elle, pendant le tournage, il a pas beaucoup apprécié.
Oui, là, il y a carrément des conflits internes au tournage qui ont peut-être justifié certains choix, quoi.
Je vais peut-être laisser Marco qui veut peut-être.
Non, mais oui, après, c'est une question aussi que je me posais, c'est que est-ce que l'écriture de cette relation entre cet homme et cette femme est symptomatique de cette époque, parce que c'est très probable aussi, parce que la manière dont étaient dépeintes et traitées les femmes à l'époque, je pense qu'on doit s'y approcher fortement. Mais c'est vrai que on assiste quand même à une relation qui est quand même déjà basée sur le mensonge, qui est celui de lui faire croire qu'elle n'est pas enceinte alors qu'elle l'est vraiment. Tout ça pour qu'il lui avoue, en plus à demi-mot, c'est toujours pareil, c'est toujours, on va jamais vraiment dire, mais on va suggérer très fortement de... Bah, tu vas accoucher en septembre, et elle fait non, en décembre, elle fait non, en septembre. Et ils débattent pendant 5 minutes pour savoir pourquoi septembre, tout ça pour qu'elle après comprenne qu'en fait, bah, elle était bien enceinte et pas tombée enceinte de lui. Donc, oui, c'est problématique sur plusieurs points, mais ça ne me dérange pas plus que ça parce que. Peut-être, comme tu disais, peut-être que l'époque veut que c'était écrit comme ça, mais après ça, on peut pas...
Non, mais tant que ça suit la logique aussi du personnage, malheureusement, ça devient pas... C'est pas que ça devient pas problématique, c'est que ça peut se réfléchir par ce prisme-là. C'est un personnage qui, effectivement, est très centré sur lui-même parce qu'il fait aussi tout pour cacher sa propre identité, même s'il considère qu'elle ne pose pas de problème. Donc, ça me semble normal qu'il soit aussi constamment dans la roublardise et qu'il ne se rende même pas compte, en fait.
Parce que, j'aime ce...
Effectivement, merci, voilà... Mankiewicz, lui, a le défaut de ne pas s'intéresser énormément à son personnage. Le personnage principal ne s'y intéresse pas non plus. Donc du coup, il y a une logique, tant qu'on reste du point de vue de Pretorius, qui fait que malheureusement, effectivement, ce personnage-là reste une fonction pour lui, même si, il y a finalement un amour qui finit par se dévoiler bien tardivement et qui se crée, qui existe, qui a quand même de la beauté dans ce qui se passe.
Après, le film est très beau, ça n'enlève rien à la beauté de ce que raconte le film, à la beauté de la relation qu'ils ont et de sa manière qu'il a de vouloir la protéger parce que je pense qu'il l'aime sincèrement. Mais il y a quand même... Moi, c'est ce qui m'a empêché d'avoir une totale empathie pour ce personnage au-delà de ce qu'instaure le film à la base de « on doit douter de ce personnage » et ce qui est intelligent dans la mise en scène de Mankiewicz quand même, c'est de tout faire pour qu'on doute de ce personnage alors qu'il a les actions les plus saines du monde. Et ça, c'est intéressant. Néanmoins, derrière... Je sais pas si du coup il a réussi son coup avec moi en tant que spectateur de jamais réussir à m'accrocher à lui parce que je me demandais toujours où était la couille dans le pâté. Et au final, j'ai eu plus d'affect du coup pour le personnage de Déborah. Donc peut-être que c'était ce que Mankiewicz voulait aussi.
Mais t'as eu plus l'affect aussi avec la révélation finale de son secret à la fin.
La révélation finale a fonctionné et ça m'a juste fait du bien de me dire oh, en fait il était cool depuis le début, c'est sympa. Et... L'autre révélation finale me fait dire quel monde de merde quand même.
Mais c'est peut-être aussi parce que Deborah Higgins a défaut justement de ne pas forcément avoir un regard qui se pose beaucoup sur elle, s'impose énormément quand elle est là. C'est elle qui hausse le ton, c'est elle qui est au-dessus des autres personnages quand elle parle. On le voit notamment sur la scène du Porsche quand ils vont visiter le papa. Ou justement, pareil, il y a un truc avec le papa où elle lui dit vous n'arriverez pas à convaincre mon père de ce qui m'arrive et vous n'arriverez pas à le convaincre de m'offrir une vie meilleure. Ça ne marchera pas. Et il ne sait pas pourquoi. C'est impossible. Pourquoi ? Elle ne veut pas dire pourquoi. Elle lui dit non, vous allez voir, il est absolument adorable. Et quand on le rencontre, oui, il est adorable. Et en fait, il n'y a pas de problème. Mais du coup, bon, bah, on se convainc de ça. Mais ce passage sur le porche où justement, elle voit la discussion qui est en train de se faire, elle voit qu'elle perd le contrôle et elle se lève, elle s'assoit, elle se lève, elle s'assoit. Il y a quand même quelque chose sur ce personnage qui est effectivement, donc là, sans être là, qui n'est pas beaucoup contre ça. On a vu, avec Luan, quel était le film dont tu parlais avant.
Oui.
Voilà. Qui s'appelle Chaise conjugale, qui est un film qu'il avait réalisé en 49. Et donc, ce que Mankiewicz dit, pour compléter à propos de l'actrice, c'est que lui, c'est une personne qui ne l'a jamais vraiment comprise. Pour Mankiewicz, c'est une personne qui ne s'est pas approprié le rôle, qui n'en avait rien à faire. Et qui, enfin, c'est ce qu'il dit de son propre aveu, il dit, c'est juste une personne qui rentrait chez elle sans penser au rôle et revenait le lendemain avec une autre robe pour faire le, enfin, pour juste jouer ce qu'elle a à jouer et qui s'en fout.
Voilà, je pense que vous pouvez en savoir plus en lisant tout l'article parce que je l'ai pas fait. Moi, j'ai juste été navigué avec des mots-clés, pour comprendre un peu mieux, ce que j'étais en train de regarder. Mais, il y a l'air d'avoir un article très très complet sur le film On murmure dans la ville sur le site moncinéamoitoutcollé.blog. Bah, si ça vous intéresse, vous pouvez.
Moncinéamoitoutcollé.
Tout collé. Il y a pas le tout collé, hein.
Non, j'avais compris.
Si j'y pense après le montage, je vous mettrai le lien là, sous la description parce que ça a l'air d'être assez complet.
Non, mais c'est intéressant de se dire que de toute façon, oui, il y a forcément des choses qui nous échappent. On découvre un film à nous, là. En plus, enfin, toi, Louis, je sais pas exactement, mais nous, on l'a découvert cet après-midi avant l'émission. Et c'est bien parce qu'on arrive aussi vierge de tout a priori. On découvre le film comme s'il venait de sortir. Donc c'est normal, comme plein de choses nous échappent. Nous intrigue, donc effectivement, lisez, complétez, regardez les contextes. Aussi, le contexte n'est pas censé expliquer le film, mais il peut en tout cas nous donner des clés, des fois, sur certains éléments qui nous perturbent.
Ça n'enlève en rien sa capacité à jouer et à convaincre, parce que derrière, elle reste très investie dans son rôle, on le voit quand même, elle se donne à fond quand même sur toutes ses scènes. C'est derrière plus la manière dont elle est filmée, la manière dont son personnage est raconté, j'ai envie de dire, qui nous donne aussi ce ressenti-là. Donc je pense que c'est soit une décision de studio, effectivement, soit une décision du réalisateur. J'ai du mal, là, en tant que spectateur, à voir où est la décision de l'actrice là-dedans.
C'est en tout cas ce qui rend le rôle un peu trouble, et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai dit, au final, on s'en fout un peu du contexte. L'essentiel, c'est de voir ce que ça, ce qui va ressortir, en fait, ce qui va réussir à s'en dégager. Si c'est, on va dire, inconscient ou indépendant de la volonté des personnes qui ont travaillé sur le film, c'est peut-être bien dommage, mais malgré tout, ça va apporter autre chose. C'est ça qui nous intéresse.
On murmure à la ville de Joseph L. Mankiewicz. Vous pouvez le retrouver en VOD. Toutes les bonnes plateformes de VOD. Et en Blu-ray, il me semble qu'il y a beaucoup.
Il est disponible sur Plex. Voilà, c'est pas sous-titré. C'est une plateforme de streaming en ligne, tout simplement, gratuite. Il est juste pas sous-titré.
Il doit être forcément disponible à l'achat dans plein de versions. Blu-ray, je sais pas, mais en tout cas, oui, ça se procure, quoi. C'est facile.
Ça se procure, c'est du Mankiewicz.
Ça se procure.
Louis a voulu terminer cette séance cinéma avec une petite chronique de fin. Je t'en prie, tu as l'antenne.
C'est en me questionnant sur le titre du film de ce mois-ci que cette chronique m'est venue en tête. La ville au cinéma. La ville comme motif. Dans la poésie, on la retrouve déjà, tout plus ou moins représenté par Baudelaire, jusqu'à Rimbaud, en passant par Bukowski, et même aujourd'hui avec le poète Arthur Teboul. Dans la peinture, avec Edward Hopper, sans hésiter, mais alors au cinéma, la ville. Bon, au cinéma, c'est pas pareil. Les Amants du Pont-Neuf, Independence Day, Sin City, bon, tout ça, c'est bien gentil, mais j'ai jamais réellement ressenti l'ambiance, l'atmosphère d'une ville au travers d'un film. Alors bon, la ville, bon... Oh, attendez, je viens de capter un truc. Il y a une ville que je connais par cœur, et pourtant, j'y ai jamais mis un seul pied. Et cette ville-là, c'est Los Angeles. Oh bordel, attendez, si c'est vraiment Los Angeles, alors sérieusement, vous me foutez n'importe où dans la ville et je peux m'en sortir sans plan. Et en réalité, je crois que c'est vraiment grâce à deux choses. Bon, déjà, il y a eu le premier confinement à GTA V. Ouais, je tiens déjà à m'excuser auprès de mes professeurs en études de ciné à l'Université de Lille. Je vous ai volé une licence parce que définitivement, pendant le confinement, j'ai pas assisté à un seul cours. Je passais mes journées à jouer à GTA V avec les copains. Mais ça, c'est un autre problème. Parce que le deuxième truc qui me permet de connaître Los Angeles par cœur, en vrai, c'est les séries. Et là, je vais vous parler de deux faces d'une même pièce dont la tranche est représentée par Los Angeles. Cette première face commence par l'histoire. Je reprends. Cette première face commence par une histoire, celle de Hank, un écrivain ayant écrit un seul bon roman et qui se retrouve engouffré dans l'abîme qu'est Los Angeles. Fou amoureux de son ex-femme, qui s'est barrée avec un tocard, Hank se rattache à sa fille, mais surtout au sexe et au whisky, parce que oui, je vous parle bien de Californication. série culte des années 2000, à la fois représentative de son époque, mais surtout de la vibe de Los Angeles. Résumer cette série serait assez difficile sans vous divulgâcher une grande partie, mais je vous garantis qu'elle vous offrira des souvenirs indélébiles. Et tout ça avec une sensation de doigts mouillés, de sécrétion corporelle, le goût du whisky dans la bouche et l'odeur de clope dans le nez. Vous y êtes ? Parce que moi, oui. Et pourtant, la série est vieille. Elle a vieilli, bah ouais, elle n'est pas toujours pertinente concernant les représentations féminines. Il y a des tropes de l'écrivain torturé par son sgeg et tout, ok, c'est revu. Mais ce qui me plaît le plus dans cette série, c'est le sentiment d'effervescence donné par la ville de Los Angeles. Tout d'abord, grâce à la performance de chacun de ses acteurs, David Duchovny, Natasha McElhone et Evan Adler. En figure de proue, en tout cas, après il y en a plein d'autres. D'ailleurs, dans la série, il y a beaucoup de caméos, notamment celui du... notamment celui de Marilyn Manson. Car oui, il y a une ambiance musicale incroyable, 100% rock, avec plusieurs apparitions de rockstar, notamment dans les dernières saisons, même si elles valent beaucoup moins le coup. Et la série est pas sans défaut, mais elle transpire d'une ambiance assez folle que j'ai retrouvée nulle part ailleurs que dans sa digne héritière, BoJack Horseman. BoJack, c'est l'histoire d'un homme cheval, un acteur sur le déclin, une ancienne star de sitcom des années 90 qui cherche sans y parvenir à retrouver sa gloire passée. Il passe la plupart du temps face à des DVD de son ancienne émission, devant lesquels il boit. Mais tout change quand son ex, Princesse Caroline, une chatte forte et indépendante, ainsi que Todd, un humain, tout ce qu'il y a de plus banal, viennent mettre du bordel dans la vie de BoJack. La série est brillamment écrite par Raphaël Bob Wexberg, je n'arriverai jamais à le dire correctement, je m'en excuse. Et là où Californication souhaitait être un digne héritage de la sitcom et faire de l'humour avec un humour un peu orienté sitcom, ici l'auteur nous met face au défaut de son personnage, à savoir sa dépression. La série est un vrai tour de force, elle est d'une inventivité assez folle, elle se permet des épisodes totalement muets directement inspirés de The Kid de Charlie Chaplin, un épisode entièrement monologué sur le deuil, et d'autres un peu plus farfelus en fin de série, comme celui qui se passe dans la tête de BoJack alors qu'il est en plein bad trip, et tout ça en animation. La série est merveilleuse, elle est vraiment sous-estimée à mon goût, elle est disponible sur Netflix, et si vous bloquez sur les 6 premiers épisodes, ne vous en faites pas. La série se détache totalement de son format sitcom, et elle vient à la fois nous faire rire, nous questionner sur ce qu'est la dépression, sur comment sortir notamment de la dépression, et comment accepter aussi ça, cette part un peu plus sombre de nous-mêmes. Et tout ça pour nous faire avancer, nous faire affronter nos peurs, et tout ça se passe bien évidemment dans la ville de Los Angeles. Los Angeles, certes, caricatural, parce que très inspiré des fables de La Fontaine, et oui, on a des métamorphoses d'animaux en hommes, des hommes en animaux, et tout ça est... C'est fascinant, je pense, à mon sens. Enfin bref, j'avais très envie de parler de la série Californication depuis très longtemps, j'avais très envie de vous parler de BoJack Horseman, je voyais nulle part où le faire, à part dans cette chronique. Alors pour moi, c'était un vrai plaisir de vous conseiller ces deux séries.
Psychic spies from China try to steal your mind's elation.
Merci pour cette chronique de fin. Maintenant, passons sans plus tarder à la boîte à personnes. Cette boîte à personnes sera particulière car nous allons piocher non pas un papier pour la séance cinéma de l'émission de mai, mais bien 3 papiers pour l'émission de mai. Les sorties d'actualité seront quant à elles traitées par l'équipe de C'est quoi l'actu, et si nous trouvons le temps, au travers de petits retours cannois avec, on l'espère, des invités. Et ben vous êtes 3 autour de la table, vous avez le droit de piocher chacun un papier. Louis, tu commences ?
Oh ! Oh.
J'ai tiré un de mes films.
Ça sera The Prodigies. Est-ce que je dois expliquer d'où vient le film The Prodigies ou pas du tout? S'il est pas connu.
Je connais, pas de soucis.
Très bien.
Si Louane connaît.
C'est sur le groupe The Prodigies, moi j'aime bien.
Non, c'est The Prodigies de.
Je sais. D'accord.
Deuxième film, pioché par Margot, attention.
Alors c'est un vrai film. The House That Jack Built.
The House That Jack Built. De Lars von Trier. Qui l'a proposé ? Louis Milon de l'équipe de C'est quoi l'actu ? Attention, est-ce que le troisième papier aura un sens ?
Ah oui, d'accord, je crois que c'était le nom. Anna de Patricia Cardozo.
C'est moi !
Maintenant, Anna. J'ai Anne. Une question à vous poser. On a ces 3 films qui sont là, en face de nous. Est-ce que je peux en piocher un pour qu'on en ait 4 ?
Oui.
J'ai hâte d'avoir un truc qui n'a aucun sens avec tout le reste.
Dans la prochaine émission, parce que là, on le garde, on en a 4. Et ils sont tous différents, j'ai l'impression. On aura The Prodigies, film d'animation français. Nous aurons The House That Jack Built de Lars von Trier. Nous aurons également Anna de Patricia Cardozo, excusez-moi. Et nous aurons également Halloween 2 de Rob Zombie.
Et bah, de Halloween de Rob Zombie. Let's go, c'est mardi.
On aura le temps de les rattraper parce que cette émission sera tournée fin mai.
C'est génial.
Si c'est pas génial, effectivement. Ainsi s'achève ce 24e C'est quoi le cinéma? Je sais que nos rencontres seront assez irrégulières, donc n'hésitez pas à activer la cloche, comme on dit, pour recevoir les notifications et être au courant de nos dernières sorties. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à Thierry. Merci à Louis.
Je murmure dans la ville.
Moi, je murmure pas dans la ville, alors merci à toi, Louane.
Et merci, Margot.
Comme dirait un certain youtubeur, allez tous.
Plein de bisous et n'oubliez pas, c'est souvent en disant de la merde qu'on finit par dire quelque chose.
Et d'ailleurs, heureusement que t'as choisi Californication tout à l'heure, parce que sinon j'avais vraiment prévu ma vanne qui te disait c'est bien de dire que tu connais Los Angeles alors que absolument tout est tourné à Vancouver.
Dommage que vous nous quittiez, alors que ça commençait à devenir passionnant.
Oui,